Tout d'abord, les enjeux de ce type d'histoire. Donc, je le répète, c'est une histoire, un projet qui est consacré à l'impact des submersions. Alors, qu'est-ce qu'une submersion ? Grosso modo, la submersion, c'est une vague qui submerge les terres sur une zone littorale, mais une vague qui est issue d'une tempête, donc d'un phénomène météorologique. Pourquoi je prends ces précautions ? Tout simplement pour que vous ne confondiez pas la submersion avec un tsunami, qui lui est d'origine volcanique. Le raz-de-marée, a priori, désigne plutôt également un tsunami. Mais alors, jusqu'aux années 1960, c'est une formule passe-partout qui concerne aussi bien les submersions que les tsunamis. Donc moi, je ne vous parlerai que des submersions engendrées par, alors, un phénomène météorologique qu'on appelle, nous, en climatologie, un événement extrême. Vous connaissez cette terminologie, l'événement extrême, c'est tout ce qui s'éloigne fortement d'une moyenne, vous direz quelqu'un de Météo France. En pratique, pour nous, qui sommes dans le domaine des sciences sociales, c'est tous ces événements climatiques qui impactent fortement les sociétés. Exemple, pour le commun des mortels, dont je suis, une sécheresse, une inondation, une tempête, etc. C'est ce qu'on appelle des événements extrêmes. Nous, gens des sciences sociales, on ne s'intéresse à ces événements extrêmes que dans une perspective charnelle, je dirais, dans une perspective sociale. Comment cet événement extrême s'est produit et quels effets il a pu avoir sur des sociétés dans le passé. C'est vraiment une question majeure. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez sur ces thématiques, vous êtes de plein pied dans le grand débat sur l'histoire du changement climatique. Donc, vous savez qu'il y a une fracture violente et qui n'est pas prête de s'estomper entre, alors je vous cite dans le texte, hein, ils s'affublent de noms réciproquement, ceux qui y croient moyennement ou pas du tout s'appellent les climato-sceptiques, et ceux qui y croient dur comme fer, eux, sont qualifiés de réchauffistes si leurs adversaires sont très très méchants, et l'autre de carbocentristes. Voilà, carbocentristes. Donc on a deux écoles, je dirais même plus deux églises, parce qu'on s'exorcise, on s'excommunie, la lutte est très... Ah ben oui, je vous renvoie au débat entre Allègre, Jouzel, etc., ça a pris des proportions. Je suis en Angleterre, quelqu'un qui nuance sans contester le réchauffement climatique est qualifié de « denier », littéralement « négationniste ». C'est assez quand même terrifiant. Je ne pense pas que tous ceux qui nuancent ou contestent soient forcément des suppôts du nazisme et du génocide. Je ne pense pas, honnêtement. Hein. Je crois qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre dans cette affaire et puis savoir raison garder. Hein. C'est un peu trop simple. Donc, les enjeux sont multiples. Il y a cet enjeu sur le débat climatique. En quoi l'historien peut apporter quelque chose ? Ben, tout d'abord, en montrant que finalement, ces événements extrêmes se sont déjà produits. Alors, si vous êtes un sceptique, ils vont s'engouffrer dans la brèche et dire « c'est pas béni, ça montre bien que cette histoire de réchauffement, c'est du vent ». Il y en a toujours eu, c'est pas nouveau, il n'y a pas d'évolution, enfin, etc. Je caricature quand même beaucoup. Voilà. Ou à l'inverse, les pro-réchauffement climatique seront gênés. Ils diront « c'est embêtant parce que ces séries historiques, finalement, elles montrent qu'effectivement, il y a eu des événements, certaines périodes, vous allez en voir, hein, là, des périodes où on a des événements extrêmes de type tempête qui sont quantitativement, je ne parle pas de sévérité, hein, mais quantitativement plus nombreux, par exemple, que depuis la seconde moitié du XXe siècle. Donc, pour l'historien, un janséniste aurait dit « la voie est étroite ». Elle est très, très étroite. Vous pouvez en permanence, et vous l'êtes de toute façon, être instrumentalisé. Je ne parle pas après d'ouverture vers les élus et les décideurs. Mais ça, vous allez le voir très, très rapidement. Alors, c'est ce que j'ai appelé, moi, le syndrome de Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'on est amené régulièrement à se prononcer dans le cadre d'expertise pour des collectivités locales ou pour l'État dans le cas du présent exposé, puisqu'il s'agissait de la fameuse tempête désastreuse Xynthia de février 2010. On m'avait commandé une espèce de rapport historique qui devait être intégré à la réflexion globale de la commission d'enquête parlementaire sur ce phénomène. Donc c'est ce que vous allez voir là. C'était une aventure absolument scientifique, institutionnelle, passionnante pour nous, parce qu'on était toute une bande, il y avait des étudiants, il y avait des historiens locaux, parce que je pense qu'il n'y a pas de fracture nette entre l'historien professionnel et les historiens locaux. Et vous allez voir, j'ai mis en mouvement là pour ce rapport des historiens locaux qui avaient une connaissance intime du territoire, connaissance d'archives, et ce qui ne gâchait rien, qui étaient parfois des élus locaux, et qui ont réussi à m'extraire des documents que je n'aurais jamais pu trouver en tant que simple historien, qui ont pu alimenter le débat, parfois de manière un peu brutale, violente. Voilà, donc c'est important, parce que très rapidement, une fois que vos résultats ont été accueillis, ben, les décideurs, les pouvoirs publics changent d'attitude, parce qu'ils découvrent que finalement l'expertise historique eh ben, ne va pas forcément dans leur sens. On va voir quel sens, mais vous en rappellerez au fur et à mesure que je vous rappellerai les titres de l'époque. C'est assez amusant. C'est aussi une enquête journalistique, cet exposé. Alors, quelle est la réalité des archives de l'historien? Bon, il faut savoir que généralement, on oppose aujourd'hui, enfin, on n'oppose pas. On présente une thèse d'un sociologue très connu, Ulrich Beck, qui parle donc de la société du risque. Alors, connaissez-le quand même un petit peu, vous le connaissez sans doute déjà. Mais en gros, son idée est la suivante. Je ne suis qu'un historien, hein, pas un spécialiste de la sociologie, mais on l'utilise très régulièrement. Mais lui dit, avant la création des sociétés modernes, autrement dit industrielles, et il situe ça dans son bouquin autour de 1840, les sociétés qui précèdent sont incapables, ne connaissent pas le risque, parce que tout simplement, elles considèrent que c'est une fatalité, elles ne peuvent pas l'anticiper. Bref, ce sont des sociétés arriérées, je réduis, c'est vrai, ce sont des sociétés arriérées, elles ne peuvent pas se projeter, anticiper une menace. Donc alors là, je pourrais en tant qu'historien, si j'étais un peu basique, vous présenter immédiatement des images sur lesquelles vous verriez une procession météorologique, on demande au bon Dieu à Sainte-Geneviève d'arrêter la sécheresse, d'arrêter l'inondation. C'est vrai qu'il y avait ça, mais il n'y a pas eu que ça, et c'est ce que vous allez découvrir au fil de la démonstration. L'historien découvre quoi quand il consulte ses archives? Premièrement, et c'est vraiment un acquis très très important, fondamental, hein, dirais-je, c'est que les germes du risque existent déjà, y compris dans les dictionnaires de l'époque. J'en ai cité un, c'est celui de Furtière. Parcourez-le de temps en temps dans le cadre de votre cursus sur vos thématiques de recherche. C'est intéressant. Généralement, on trouve toujours de quoi moudre son grain, hein, dans ce dictionnaire. C'est valable pour le Trévoux qui est plus tardif. Et en fait, Furtière, dès la fin du XVIIe, définit la notion de risque. Il l'associe dans un premier temps à la notion de jeu, parier. Et très rapidement, vous avez une évolution sémantique, il affine sa définition, il dit, finalement, c'est un péril. Il s'éloigne de la notion de jeu. Il dit, c'est un péril et même un grand danger, je cite dans le texte, et c'est là que c'est intéressant, immédiatement, il lie cette notion de grand danger, de péril, avec, et je le cite à nouveau, pour bien vous démontrer que c'est tiré du document, et pas moi qui ai surinterprété une définition, il dit, c'est finalement le fait de s'exposer. Ça, c'est passionnant. Les géographes, vous devez percuter immédiatement, parce que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que le risque ne peut se définir que par rapport à la vulnérabilité, la notion d'enjeu. Ben, notre bonhomme, fin XVIIe siècle, il a à peu près compris l'essentiel. Des concepts que nous, on brasse, surtout en géographie, les historiens sont un peu éloignés. Ils utilisent les mots, mais finalement, ils ne les définissent pas très bien. Les géographes davantage, hein, s'y collent, il y a vraiment des écoles géographiques, etc. Mais finalement, fin XVIIe siècle, on a les premiers jalons qui tentent de définir cette notion de risque, de péril, de vulnérabilité, même si le mot n'est pas employé, l'idée d'enjeu. Mais ils n'utilisent pas dans ces définitions. Donc voilà pour le rappel un petit peu sémantique. Mais vous voyez qu'immédiatement, le risque est associé à la vulnérabilité. Or, ce sera vraiment le fil conducteur de mon propos. Et alors, il va un petit peu plus loin dans la notion de vulnérabilité. Il dit, ah, qu'est-ce que la vulnérabilité? Il distingue très rapidement ce qui peut être blessé. C'est une allusion relativement claire aux sociétés, aux individus, aux populations. Et à ce qui peut être détruit. Alors, dans détruit, que peut-on y mettre? Alors là, c'est une interprétation personnelle. J'y ai rajouté, moi, sans vergogne, parce que je consulte quand même des archives, les infrastructures, les habitations. Donc on retombe dans le débat actuel entre géographes sur ces thématiques, aujourd'hui. Et je le répète, on situe fin XVIIe siècle. Face à ces définitions, cet acquis historique, comment réagissent les décideurs et qu'est-ce que l'histoire peut apporter? Je pose une nouvelle question passablement provocatrice, est-ce que la rencontre est possible? Je vous avoue aujourd'hui être un petit peu perplexe, j'en suis pas convaincu du tout, et mon jugement, qui est un jugement de valeur, certes, n'a aucune connotation politique. Je n'opère pas de franche distinction entre une majorité de gauche et une majorité de droite pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises. Mais le contexte, effectivement, c'était le rendre cette expertise à cette fameuse commission parlementaire. Donc j'avais des parlementaires de gauche, des parlementaires de droite. Localement, donc c'était surtout pour la région Poitou-Charentes, j'avais plutôt affaire à des gens de gauche. Le conseil général de droite, ça n'a pas été évident, vraiment pas évident. Vous verrez pourquoi, parce qu'il y a vraiment des vérités historiques qui peuvent déranger dans certains cas. Hein. Comme un bon journaliste peut découvrir des lièvres contemporains, un historien peut aussi en découvrir, qui alimentent le débat ou qui le... ne font pas exploser, mais qui créent de vraies tensions dans le cadre de la réflexion globale. Et donc, ça a donné lieu à la sortie d'un rapport qui était remis le 4 juillet et par la suite à un ouvrage qui a été publié. Alors, pour mémoire, qu'est-ce qui est le catalyseur de cette expérience? C'est la fameuse tempête Xynthia. Je cite dans le texte un titre de l'époque, « La catastrophe du siècle ». Donc, un siècle, on est en 2010, on pouvait considérer que leur siècle démarrait en 1900 et pas en 2000. 1900 à 2010, grosso modo. De quoi s'agissait-il? D'abord, sur le plan météorologique. Effectivement, d'un événement climatique extrême. En pratique, une tempête, donc je vous passe les détails, entre le 26 février et le 1er mars, donc dans la nuit du 27 au 28, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la médiatisation d'époque, la cause, une dépression météorologique majeure qui était orientée sud-sud-ouest. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, y compris les météorologues, ont présenté le déplacement de ces dépressions sud-sud-ouest qui démarraient dans les îles à Madère, etc., qui passaient par la Galice, comme un scénario météorologique exceptionnel. Si vous avez l'occasion de repasser, je ne sais pas quoi, sur YouTube, des bulletins météo de l'époque, vraiment, on disait, on n'a jamais vu ça. Un fort coefficient de marée, 102. Résultat, en termes d'impact géographique, très très important, vous avez les pays qui sont énumérés, et comble de malchance, c'est notre pays qui était véritablement en première ligne, qui a eu le taux de perte le plus élevé, comme l'on dit, notamment l'Aquitaine et la région Poitou-Charentes. Et quel bilan? J'ai listé, l'Allemagne, Espagne, Italie, Belgique peut toucher. En revanche, en France, 47 décès, 500 000 sinistrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans un pays développé, je travaille sur le risque, la vulnérabilité depuis maintenant une dizaine d'années, c'était vraiment, là je pèse le mot, inédit pour l'historien que j'étais, un tel autant de pertes humaines. Les sinistrés, pourquoi pas? Les destructions matérielles, pourquoi pas? Je sais que les sociétés sont de plus en plus fragiles, vulnérables, mais perdre autant de gens dans une société effectivement très moderne, avec dans un État qui est centralisé, qui a des services de prévention, de pré-positionnement des forces de secours, ce qu'on appelle la défense civile, c'est vraiment un tribut très, très, très élevé. Donc, ça m'avait immédiatement interrogé. Et mes étudiants aussi étaient quand même un peu perplexes parce que finalement, sous l'Ancien Régime, pour ce genre d'événements comparables, on avait des taux de perte guère plus importants, parfois même inférieurs. Sur le front financier, ça laisse rêveur, hein, en Europe environ 3 milliards d'euros, en France 1,5 milliard. Si on compare un petit peu, il faut toujours quand même comparer. Je sais qu'en histoire, on n'aime pas trop comparer des événements historiques avec des événements contemporains, mais si on veut quand même pouvoir servir un petit peu à la société, il faut donner des ordres de grandeur. Donc, c'était deux fois le coût des inondations du sud de la France en novembre 2011. Je ne sais pas si vous en souvenez. Là aussi, des événements très médiatisés. À l'époque, donc c'était du temps du gouvernement Sarkozy, j'avais fait un parallèle, trois fois le montant du plan d'austérité français, j'ose pas comparer avec l'actuel, parce que depuis, l'austérité a grandi, n'a cessé de s'amplifier. Mais c'était quatre fois moins quand même coûteux que la tempête de Lothar en 99. Donc Lothar a coûté cher à la nation, hein, quand même, très très cher, ne perdez jamais dû. Alors, vous avez quelques stigmates hein, de cette tempête sur l'île de Ré. Je vais régulièrement sur l'île de Ré, je travaille un peu avec les collègues géographes du Liens à l'université de La Rochelle, et puis pour des raisons familiales, j'ai un réseau de connaissances. Donc on avait fait des reconnaissances de terrain. Vous voyez un petit peu les dégâts, la vague qui peut soit déborder, écréter la digue, ou au contraire, carrément l'éventrer, faire un trou dedans. Alors, le scénario catastrophe, c'est la digue éventrée. C'est-à-dire que brutalement, vous avez un flot continu qui va circuler et descendre, parce que vous verrez, en fait, les digues sont en situation dominante par rapport aux zones urbanisées. Et je peux vous garantir que l'urbanisation sur cette partie du littoral français a galopé depuis maintenant une vingtaine d'années. Conséquences visuelles, c'est des clichés qui m'ont été fournis par la gendarmerie nationale. Ils avaient fait une couverture aérienne à l'époque. C'est assez amusant, quoi. On a l'impression d'avoir des archipels en Poitou-Charentes sur la côte vendéenne en particulier. C'est assez impressionnant. Donc à l'époque, rappelez-vous du matraquage médiatique. C'est quelque chose d'invraisemblable, inimaginable. Que fait la police, l'État, la gendarmerie? On n'a jamais vu nos terres inondées comme cela. Ça ne s'est jamais produit. Ou alors il faut remonter, je ne sais pas quoi, moi, à l'époque du paléolithique supérieur. Enfin, quelque chose d'inconcevable. Immédiatement, il y a eu des commissions d'enquête, des mouvements de réflexion au sein de nos élites qui ont accouché d'une loi qui a été adoptée par le Sénat en mai 2011. Alors, c'est intéressant, très intéressant pour l'historien qui vraiment ne peut qu'abonder dans le sang. Je cite le texte officiel du Sénat. Oui, il faut absolument une préparation à la gestion de crise et c'est devenu une formule passe-partout, former la société à la culture du risque. Vous faites des recherches sur Google, vous mettez culture du risque, mais alors vous allez voir un florilège dans le public, dans le privé, ils font tous de la culture du risque. La difficulté, c'est souvent le problème quand même en France, on n'a jamais essayé de définir ce qu'on entendait par culture. Culture, c'est finalement quelque chose de positif. Je disais, il y a culture du risque. Le risque, c'est un danger, vous l'avez vu, ça met les gens en péril. C'est pas vraiment un bonheur intellectuel. Donc il faudrait rediscuter cette notion de culture. Je parlerai, moi, davantage de mémoire du risque, de connaissance du risque, etc. Pourquoi pas ? Le risque, je ne reviens pas dessus. Le texte enchaînait ensuite sur la nécessaire politique de réduction de la vulnérabilité. Vous constatez que tous les mots-clés empruntés par les grands géographes dans cette thématique figurent dans le document. C'est quand même pas inintéressant. Ils ont fait un vrai travail académique, hein, quand même, les sénateurs à l'époque. Et tout cela pour faire face à un événement, je les cite à nouveau, d'exceptionnel. Important le mot exceptionnel. Il est systématiquement utilisé depuis 20 ans dans toutes les catastrophes. Quel est l'intérêt quand vous êtes un décideur du mot exceptionnel ? Vous rentrez en politique demain, utilisez le mot exceptionnel. Le mot exceptionnel, ça permet de livrer un autre message que je qualifierais de subliminal, consistant à dire c'était imprévisible. Allez, les pieds dans l'eau, vous êtes noyé, mais je ne pouvais pas le prévoir en tant que décideur. Or, cette notion d'exceptionnel réapparaît dans tous les discours depuis une vingtaine d'années. Commencez, regardez la presse, 99 Lothar, reprenez ensuite avec Draguignan, c'était en juillet, il y a 2 ans maintenant, parce que c'était cocasse l'affaire de Draguignan, hein, aussi, les pompiers qui étaient sauvés par la Légion étrangère. Alors tout le monde a ri, personne n'a creusé plus loin, savoir pourquoi les pompiers étaient inondés. Tout simplement parce qu'en France, depuis 15 ans, 20 ans, pour des raisons bassement financières, on installe les pompiers dans les territoires inondables. Ça explique que très régulièrement, quand il y a une catastrophe naturelle, les premières victimes sont les pompiers qui sont censés porter secours aux victimes. Ça a été le cas à La Faulte-sur-Mer. Ça n'a pas été divulgué. C'est des informations qu'on a dans le cadre de débriefings de réunions de pompiers. Mais c'est une autre forme de vérité aussi. Et on continue à construire les casernes de pompiers dans les zones inondables. Alors donc nos sénateurs listent le vocabulaire qui convient à la situation et ils disent... Ah, la solution, elle est toute trouvée. C'est une solution qui est typiquement française, qui procède de notre siècle d'État centralisé, républicain, qui a signé littéralement un chèque en blanc quand même au corps des ingénieurs, qui consiste à dire, qu'à ça ne tienne pour l'avenir, on va renforcer notre système de défense. C'est un petit peu le mythe de la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle digue. On était donc en 2011. On commençait à rentrer dans une phase de crise économique. À l'époque, on disait, non, ça ne va pas durer. On sait aujourd'hui qu'elle va durer. Il n'y a plus d'alternative. Je pense qu'on en prend pour un pas de temps de quelques années. Ça signifie qu'ils préconisent des mesures de défense qui coûtent énormément cher dans une phase de dépression économique et de dépression budgétaire. Ce qui est quand même assez déroutant, puisque le rapport sénatorial est en ligne, consultez-le, dit on va créer des ouvrages de défense et on sollicitera un petit peu plus le fonds Barnier. C'est le fonds catastrophe naturelle. Le problème du fonds Barnier, c'est qu'il ne se remplit pas naturellement en permanence hein, quand il est vidé. Ça implique une nouvelle fiscalité, plus lourde, en période de difficulté pour la société. Ce qui est amusant, c'est qu'on pense systématiquement à de nouveaux ouvrages de type pharaonique, qui ont quand même fait preuve dans le cas preuve de leur inefficacité dans le cas de l'affaire Xynthia. Il y avait bien des digues. Hein. Les 50 morts là dont j'ai parlé, les trois quarts, je crois qu'il y en a 40 ou 45, ils sont morts derrière une digue. C'est le fameux lotissement de la faute. Derrière une digue. On a dit aux gens, il n'y a pas de problème, ce lotissement ne craint rien. Les ingénieurs sont passés, ils ont paramétré. Mais rappelez-vous de l'affaire de Fukushima pour le tsunami, c'est la même chose. Il y a eu une sous-estimation de la hauteur des digues. On a des ingénieurs japonais, j'ai l'occasion de travailler avec des japonais, ils travaillent beaucoup là-dessus, enfin, plutôt en SHS, ils disent, les ingénieurs sont venus il y a 10-15 ans, ils ont réussi à convaincre les pêcheurs japonais de quitter les eaux des ports pour s'installer à proximité du port lui-même, en disant, mais c'est un non-sens économique, vous allez faire des économies en déplacement, en flux tendu, etc., enfin, tout ce que vous voulez, nous, on vous fait la digue qu'on va paramétrer, on a une modélisation des référentiels mathématiques, la vague tsunami ne peut pas dépasser telle hauteur, et ça a été le désastre, là, de la fameuse côte, le nom m'échappe à chaque fois, mais vous pouvez vous reporter aux journaux de l'époque, et résultat des courses, les trois quarts des petites villes, des petites villes de pêcheurs, ont été balayées. Donc, il faut quand même, hein, c'est pas anodin, hein, tout cela, ça implique des vies humaines, et si vraiment on n'a pas, on n'accorde pas d'importance particulière aux vies humaines, des coûts, au sens cette fois-ci pécuniaire du terme, exorbitants pour la société. On crée la vulnérabilité dans ces cas précis, hein, de toute pièce, au jour le jour. Donc on prévoit ça. À aucun moment le rapport sénatorial n'émet l'hypothèse, pas forcément asséner la vérité, mais dire est-ce qu'on ne devrait pas rediscuter de l'urbanisation littorale, éventuellement créer des zones tampons, ce que j'appelle moi des glacis stratégiques, j'utilise volontairement de la terminologie militaire, parce que ça a la même fonction, hein, qui pourrait absorber une partie de la vague. Et vous allez voir que les archives démontrent que c'était bien ce que faisaient les anciens. Vous n'avez pas de village sur le Trécotier. Nulle part, hein, sur les littoraux français ou étrangers. Généralement, ils sont en retrait, ils sont à 1 km, 1,5 km pratiquement. Et entre la laisse de mer et le village, vous avez ce glacis stratégique qui correspond à des prés, à des zones humides, etc. Mais qui était exploité, qui n'était pas abandonné sur le plan économique. Donc là, le rapport n'en dit absolument rien. Pire encore, 2 mars 2011, discussion à l'Assemblée nationale, la ministre de l'Environnement est présente, elle n'a même pas connaissance du rapport, et encore moins du rapport historique. C'est une députée de l'opposition qui lui sort le rapport historique, qui dit, mais elle est en train d'affirmer qu'on n'a jamais connu ça, que c'était imprévisible. Et la députée du coin, qui est de La Rochelle, sort le rapport, elle dit, madame, visiblement, madame ministre, vous n'avez pas lu. Dans ce bouquin, il y a une série chronologique qui montre que depuis au moins le XVIe siècle, on a eu très régulièrement des événements de type Xintia, parfois plus sévères que celui de 2010, etc. Et c'est assez amusant parce que c'était passé à l'époque sur Internet. La ministre, toute confuse, qui dit « non, on n'a pas transmis tout ce qu'elle a pu faire ». Donc la députée qui était un peu qui a le sang chaud, lui a dit elle a commencé à descendre et elle lui a posé le bouquin sur son pupitre à l'époque. C'était assez rigolo. Vous voyez bien, le dialogue n'est pas évident entre l'expertise scientifique, et ce n'est pas seulement valable pour l'histoire, et les décideurs publics. Donc l'équipe, là on s'est posé question avec mes étudiants, on a fait quand même du travail, il y a eu une production de résultats. Comment est-ce qu'on peut passer le message? Et on s'est tourné vers l'Union européenne, qui elle a vraiment des objectifs en termes de vulnérabilité et de risque très très importants, et qui lance régulièrement, beaucoup en ce moment, des appels d'offres sur les risques. Tous les risques, risques sanitaires, de sécheresse, d'inondation et de submersion. Et dans le même temps, quand on présentait nos résultats, on était régulièrement approché par des réassureurs. Donc réassureurs privés, c'est le cas ici, je cite Aon Benfield, ou réassureurs que je qualifierais de mitigés cochons d'Inde, statut mixte, c'est la Caisse centrale de réassurance. C'est le principal réassureur de l'État français, mais qui dans le même temps a pris des parts de marché dans la réassurance à l'étranger. Il s'est d'ailleurs loupé il y a peu de temps en réassurant des biens japonais sans comprendre que les biens japonais de Toyota étaient réinvestis dans les zones inondables du Thaïlande. Donc il y a 2 ans, ils ont dû régler une ardoise très très élevée, alors qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient réassuré des biens japonais au Japon. Bon, cela dit, après Fukushima, il ne devait plus avoir d'illusion non plus hein, sur l'intérêt d'implanter les biens réassurés au Japon non plus. Mais à l'époque, il y a eu des sanctions, hein, le gouvernement a pris des sanctions, il y a des têtes qui sont tombées. Bref, c'est intéressant, mais il n'y a pas de retour d'expérience côté français. Et pour travailler dans le cadre de programmes européens, c'est un collègue hollandais qui me dit « Ah, c'est rigolo, parce que vous les Français, vous n'avez pas décoincé, vous n'avez rien fait. Regarde-nous ce qu'on a produit après votre Xintia. » C'est en bas à droite, c'est l'image que vous avez ici. Les Hollandais, ils sont vraiment, ils sont serviables, hein, ces Hollandais. Non seulement ils ont fait une commission, ils ont publié un rapport, mais pour nous aider un petit peu, ils l'ont traduit en français. Hein. C'est le ministère. Ah, absolument, vous avez là, je n'en revenais pas à l'époque. Il est très très bien fait. Les Hollandais ont tout analysé, ils ont repris les procès-verbaux de gendarmerie, ils ont écouté les pompiers. On n'en a pratiquement jamais entendu parler. Le rapport sénatorial ne dit qu'une chose, il faut s'inspirer des exemples hollandais. C'est tout. Les Hollandais sont allés beaucoup plus loin pour un pays qui n'était pas le leur. Ils ont vraiment fait un rapport très très détaillé sur les impacts. Il y a de la géographie, il y a de la cartographie très précise, à très grande échelle. C'est un très très beau travail de fait. Côté français, c'est l'année dernière, en octobre-novembre, ça devait être les vacances de Toussaint, je retourne sur l'île de Ré dans la zone qui avait été particulièrement impactée, on est donc dans des petites villes, et je vois des maisons qui se construisent après Xintia. Vous avez le permis de construire, je l'ai pris en photo parce que on vous dit, quand vous en parlez à des élus, vous dites non, c'est pas possible, de toute façon c'est interdit, on ne peut plus Xintia. Mais on autorise, le PMI est postérieur à Xintia, on continue à autoriser, et on recommande en fait, la construction de maisons de plein pied. Parce qu'il faut savoir que le service du patrimoine interdit sur l'île de Ré et Oléron des constructions à deux étages parce que ça bloque la vue sur la mer pour les autres maisons qui sont derrière. Or, vous savez qu'à la faute sur mer, les victimes ont été victimes de quoi ? De l'absence d'étage. Et l'absence de Vélux n'est pas autorisée non plus dans les toits. Donc les gens n'ont pas pu s'échapper. Tout le monde n'a pas eu la force, la présence d'esprit de faire sauter les tuiles pour se réfugier sur le toit. Mais je vous renvoie au témoignage de l'époque. Et on continue à construire. Alors ces maisons, elles sont pratiquement de plein pied, elles ont une margelle de 30 cm. Un particulier a essayé de surélever après Xintia, il s'est fait sanctionner. Il a dû payer une amende par les services de l'État qui sont intervenus. Ils ont dit non, non, ici, on ne fait pas de margelle, on ne rehausse pas les maisons. Vous gardez ça dans un coin de la tête, parce qu'on reviendra sur l'habitat traditionnel ensuite. Donc trois paliers de réflexion vont être abordés désormais. Premièrement, cette histoire du discours politique et médiatique rediscuté du caractère exceptionnel de l'événement. Et là, dans cette matière, l'histoire est sans doute la meilleure des disciplines pour nuancer cette affirmation, ce que j'appelle une espèce de dogme de l'inédit ou de l'exceptionnel. Deuxième point, le caractère opérationnel d'une méthode d'évaluation des coûts actuels d'événements historiques qu'on documente et qu'on essaie de réévaluer avec, par exemple, des réassureurs. Mais ça pourrait se faire avec des géographes. Simplement, le géographe n'aura pas à sa disposition, parce que ça relève de la confidentialité, il n'aura pas à sa disposition ce qu'on appelle les portefeuilles de contrats d'assurance. Ça vaut donc vraiment la peine de travailler avec des réassureurs, parce que vous leur dites, on va faire un papier ensemble, vous publierez avec moi. Ils sont contents, hein, c'est un peu de la brosse à reluire pour eux, c'est important. Ils ont une politique de promotion, de valorisation. Et ils ne vous donnent pas les données précises, mais vous avez des statistiques très fiables que l'État ne peut pas vous procurer. Ou refusera de vous procurer. De toute façon, les services de l'État sont complètement cloisonnés et hétérogènes. Donc, aucun ne pourra vous proposer la totalité de la masse. Alors là, c'était avec Eoin Benfield. Et Eoin Benfield est le premier réassureur au plan national pour tout ce qui est contrat habitation. Donc, vraiment, c'était un petit peu le collaborateur idéal. Et enfin, troisième point, l'expérience de ces sociétés anciennes en matière de résilience. Je ne le définis pas pour l'instant, le terme de résilience, si vous voulez bien. Donc, battage médiatique. Nous sommes le 26 février, donc pratiquement en temps réel, Le Monde, un phénomène jamais vu depuis plusieurs siècles. On ne se pose aucune question, hein, le journaliste ne cherche pas à savoir, il ne cherche pas à ouvrir un livre, parce qu'il y a des historiens locaux hein, quand même qui avaient publié sur le problème de submersion, je l'ai découvert, et des historiens locaux qui avaient fait des choses pas inintéressantes. Alors, il n'y avait pas de source, on ne savait pas d'où ça venait, mais on comprenait bien que c'était vrai. Mais il avait fait ça de manière moins méthodique qu'un historien professionnel, mais on ne pouvait pas remettre en cause. Donc, je pose la question suivante. Est-on en présence d'une posture médiatique et politique durable ? Oui, bien sûr, la réponse est affirmative. Et il suffit de citer les mots-clés du désastre de février 2010, à l'époque, inédit, exceptionnel, imprévisible. En vis-à-vis, le discours était similaire en 1999, je vous l'ai déjà dit, pour Klaus en 2009, la crue de Draguignan en juin 2010, et puis, je parle de récidive quasi mondiale avec l'affaire de Fukushima. Imprévisible, ça ne pouvait pas être anticipé. En fait, dans bien des cas aujourd'hui, les autorités, surtout en France, mais ça concerne d'autres pays, ça a été le cas des Japonais en 2010, alors qu'on ne cessait, moi le premier, hein, de vanter la culture du risque des Japonais. Et je me référais au tremblement de terre. Je pense que je n'avais pas tort quand même. Mais ce que n'envisagent pas les autorités, où que ce soit dans le monde, ou en tout cas très peu d'autorités, peut-être les Hollandais, bon, je ne leur signe pas de chèque en blanc. C'est ce que j'appelle, moi, le scénario du cumul d'extrêmes. Pendant le même temps, plusieurs catastrophes. Fukushima, un tremblement de terre. Donc, tous les appareils des services d'État sont déstructurés parce que ça a tremblé, les maisons tombent. Immédiatement après, une vague qui submerge et la vague qui noie une centrale. Et je travaille dans plusieurs commissions, l'Association de prévention des catastrophes naturelles, dans l'Observatoire national des risques naturels, qui est une espèce d'usine à gaz ministérielle qui est en cours de construction. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate ? Que les ingénieurs tiennent le haut du pavé, mais des ingénieurs de différents corps. Ils sont incapables, je dis bien incapables, mais ils sont brillants, hein, ce sont des politiques, je ne discute pas de leur capacité intellectuelle. En revanche, ils ne sont pas capables d'avoir une approche intégrée de la catastrophe. C'est-à-dire que chacun travaille dans son domaine de spécialité. Vous allez avoir un gars d'EDF, il va vous dire « Ah, moi, le risque professionnel, c'est une inondation. » Ou au contraire, il va dire, ben, c'est le tremblement de terre, de toute façon, on l'a parfaitement calibré, c'était dans la chronique de Bâle, 1360, je ne me souviens plus très bien, où on l'a tout échelonné. En revanche, non, inondation, on ne connaît pas. Si vous connaissez Fessenheim, il y a une digue qui n'est vraiment pas très haute. Pour avoir travaillé sur les inondations du Rhin, c'est vraiment pas quelque chose d'invraisemblable. Une très grosse inondation, il suffit que la digue soit pas très bien entretenue. C'était le cas pour Xynthia en Vendée, en Charente, etc. La digue rompt parce que la pression est trop forte. Et on est dans la même situation que Fukushima. Mais a priori, toutes nos centrales sont au fil de l'eau, quasiment, je me trompe. Bon, voilà. On a eu des alertes très sérieuses en 1999 dans l'Ouest, pour le Blayais, etc. Plusieurs centrales ont été inondées, mais on a maîtrisé la situation du fait de la tempête Lothar. Mais à l'époque, ça n'a déclenché aucun dispositif particulier ou aucune commission de réflexion. Après Xynthia, on s'est fait un peu plus peur. Et officiellement, cela dit, la Commission européenne qui a enquêté il y a peu de temps n'était pas convaincue, hein, quand même, par les rapports français, si je ne me trompe. Mais officiellement, oui, on prend tout en charge. En pratique, quand on participe à ces commissions de réflexion, non, parce qu'ils refusent strictement de partager leurs données et d'avoir une vision intégrée, ça implique de travailler avec les autres. Mais ils sont tous ingénieurs. Donc, ce qui menace le plus nos sociétés, c'est ce scénario du cumul d'extrêmes, plusieurs événements dramatiques en même temps ou très rapprochés. Alors, quid de la mémoire des catastrophes et des extrêmes climatiques? Alors, vous avez un très bon travail, c'est un article en anglais qui est sorti il y a 2 ans, de Fekri Hassan, qui travaille sur la mémoire du risque. Et il dit, alors, c'est plutôt un sociologue qu'un historien, et il dit, la mémoire, elle perdure d'une catastrophe pendant 60 ans. 60 ans. Alors, pour l'historien du climat, on a fait des bases de données dont vous parlez, Vincent, dans le cadre d'ISCLIM. Et c'est intéressant parce que, non seulement on peut reconstruire, faire les graphiques, mais c'est amusant parce que, quand vous faites une base de données, c'est un jeu qui est un peu rébarbatif. Mais quand elle est faite, vous repérez des événements. Et quand il y en a d'autres extrêmes de la même famille, vous voyez pendant combien de temps, à partir de ces événements extrêmes, ils restent inscrits dans les mémoires. Ce qui va réapparaître. Vous avez par exemple l'hiver 17, avant 1709, vous connaissez l'hiver 1709, il y a eu un très grand hiver en Europe, c'est celui de 1604. Et en fait, celui de 1604, grâce à la base ISCLIM, on voit pendant combien d'années il est maintenu dans les mémoires. 1709 arrive, là pour le coup c'est une submersion mémorielle, 1709 efface des mémoires l'événement de 1604. On n'en parlera plus jamais dans les archives. Donc c'est ce qu'il a fait lui. Et il considère que de ces pas de temps sont de 60 ans. Aujourd'hui, par rapport à nos études propres en tant qu'historiens, je dirais que la mémoire d'un événement catastrophique dans nos sociétés modernes, c'est celles qui sont évoluées, hein, du Rydbeck, généralement cette mémoire est comprise entre 5 et 10 ans. En dehors du Poitiers-Charente aujourd'hui, qui a encore une mémoire relativement vive de Xynthia? La mémoire est en train déjà de s'estomper, en tout cas au niveau des grands corps de l'État. On parle de moins en moins, ils ont botté en touche, on ne peut plus revenir sur cet événement. Pour l'instant, il reste encore accroché à Fukushima. Pour combien de temps, je n'en sais rien. On a eu les Jafieules dans mes archives, j'ai trouvé des traces. Je leur ai dit, il y a un risque potentiel à l'époque, c'était avant les Jafieules. Ils m'ont dit, non, vous racontez n'importe quoi, vos archives ne sont pas fiables, c'est pas possible qu'un nuage arrive en 24 heures sur le nord de l'Angleterre, après 48 heures sur le nord de la France, etc. Bon, les Jafieules est arrivé, a démontré le contraire. Tout le monde s'est affolé, on a multiplié les commissions d'enquête, on a redemandé des scientifiques de partout. Ça a duré à peu près 2 mois. 2 mois, 3 mois. C'est terminé, c'est plus pris en compte dans le cadre des risques. Donc, gardez bien à l'esprit, aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, c'est inversement proportionnel avec la profondeur historique, la mémoire se rétrécit. Tout simplement parce qu'on est submergé par un flot d'informations, c'est vrai. Je pense aussi que ce flot d'informations est instrumentalisé par les médias, je n'en sais rien, mais peut-être par des décideurs, parce que ça permet d'oublier plus facilement. Alors, quel est le verdict de l'histoire? Rappelez-vous, mot-clé, inédit, exceptionnel, invraisemblable, imprévisible, etc. La véritable étude historique approfondie a concerné le Poitou-Charentes. On a recensé entre 1500 et 2010 32 événements de type Xynthia. On rediscutera après de leur sévérité, si vous voulez bien. Pour la Normandie, mais c'est une étude qui est bâclée, et je place tous mes espoirs en Suzanne désormais, puisque sa thèse portera sur les risques de vulnérabilité. C'était tout l'intérêt d'avoir Stéphane à nos côtés, parce que je pense qu'il aurait été intéressé par votre recherche. C'est d'essayer de les répertorier en Normandie aussi. très facile de répertorier les événements extrêmes. Vous allez voir comment. Alors, si vous êtes non-historien, vous êtes un peu surpris, c'est vraiment pas une vue de l'esprit. Hein. On a des veines archivistiques extrêmement épaisses. On est plus confronté à un problème de tri, d'estimation, qu'à un problème de volume des archives. Région méditerranéenne, on a fait pareil, une étude rapide dans un premier temps et qu'on est en train de dans le cadre d'un projet européen pour la Méditerranée française, hein, uniquement, en gros, de 7 jusqu'à la frontière italienne. On en a recensé, dans le cadre vraiment d'un dépouillement très très rapide, qui est plutôt un dépouillement bibliographique qu'archivistique, 25 événements. L'océan Indien, c'est en cours. On va publier un papier là avec un post-doctorant de vos collègues de Caen. L'océan Indien, pareil, on est en train de nous dire qu'il y a une recrudescence des cyclones. Les archives de la Compagnie des Indes orientales nous a livré une chronologie depuis les années 1650-1660. On a à peu près une quarantaine d'événements de type cyclonique, très très sévère, vous ne la connaissez pas, mais c'est l'échelle de Simpson, à partir du niveau 3, l'échelle. Donc c'est vraiment la frange supérieure de l'extrême. Et en cours, c'est ce que je fais un petit peu actuellement, entre autres en Grande-Bretagne, sur le Maghreb, il y a un risque énorme, et tous les géographes le savent, hein, ce n'est pas quelque chose de très original. Alors, comment peut-on affirmer en tant qu'historien qu'on a retrouvé tant de submersions, certaines étant situées vers les années 1500 ? Tout bêtement parce qu'on est vraiment assis, comme Madame de Sévigné, sur son tas de blé, nous, on est assis sur un tas d'archives, il y en a vraiment beaucoup. Et finalement, je croyais qu'on avait un privilège d'historien français. Et là, depuis que je suis en Angleterre, je me rends compte que finalement, c'est vraiment un privilège d'historien. Mondial, c'est-à-dire qu'on a ce type de fonds, ils sont redondants d'un pays à l'autre, d'une tradition étatique à l'autre, finalement on retrouve les mêmes gisements. Alors, lesquels ? Alors, il faut d'abord les localiser sémantiquement parlant. Vous avez des exemples. Dans le sud-ouest, on parle de Vimer. Sur La Rochelle, on parle de Malines. En Normandie, on parlait de crétines. Vous connaissez peut-être l'expression en vieux normand, les crétines. En fait, c'est directement influencé par le latin, crescere, grandir, augmenter. Ou alors les ouragans systématiquement orthographiés avec un H, 2G parfois. Et vous avez, alors lui, qu'est-ce qui nous pose comme problème d'interprétation ? Les rats de marée. Les rats de marée, ils sont utilisés à toutes les sauces, mais quand vous discutez avec un géophysicien, il vous dit le rat de marée, c'est un tsunami. Il refuse d'inclure dans le rat de marée une submersion d'origine météorologique. Donc là, c'est là que la médiation est importante, on est en pleine transdisciplinarité. Il faut qu'à ces gaillards-là, on soit capable de leur distinguer le vrai rat de marée, leur rat de marée, de la submersion. Donc c'est vraiment une aventure scientifique, et pas seulement une aventure en termes de recherche. Donc je vous l'ai dit, identifier le tsunami. Quand on doit distinguer la submersion du tsunami, alors il faut consulter des livres de raison, beaucoup de livres de raison. Parce que si dans un livre, vous ne savez pas si votre vague elle est due à un tremblement de terre ou à un événement météo, tout d'un coup, vous trouvez un livre de raison, et c'est un gaillard, un curé, un particulier. Nous, ici, vous avez l'exemple d'un négociant protestant de La Rochelle qui, en fait, a levé l'hypothèque en disant non, un peu partout dans la région, dans ce qui allait devenir le département de Charente-Maritime, on a entendu un bruit sourd à telle heure, etc. Et puis, quelques minutes plus tard, on a vu une vague énorme envahir le port de La Rochelle. Bon, là, il y a toute ambiguïté levée. Pas de difficulté. Donc c'est du ratissage très très large. Et nos collègues des sciences dures sont exigeants. Ils ont raison, cela dit. Je pense qu'on peut procurer ce niveau d'information. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Alors, quelles archives ? Textuelles, majoritairement. Alors, le filon administratif, bien entendu, les délibérations municipales. C'est pas un hasard si Pierre et quand même Vincent ont choisi de prendre ce thème. C'est imbéni, c'est très facile à appréhender dans une perspective historique, la thématique des risques, des vulnérabilités. Parce que depuis au moins le 14e, 15e siècle, les villes, avant la création des États centralisés, ont engendré, généré, construit un appareil bureaucratique. Et pour certaines villes françaises, vous avez des séries comptables, même des séries de délibérations municipales, qui démarrent vers 1420 dans le cas de Paris. Moi, j'ai vu Paris, Lyon. Lyon, j'ai les premières délibérations 1420. Et alors, sachez-le, les élus, dès la fin du Moyen-Âge, sont extrêmement sensibles aux événements extrêmes. Parce que l'événement extrême a un impact social quasi immédiat. L'événement extrême va perturber, détruire les infrastructures. S'il n'y a plus de pont, s'il n'y a plus de moulin, on n'est plus capable de moudre, de transporter les vivres. S'il n'y a pas de vivres, il y a un risque social. Mécontentement, émeute. Et c'est là que les élus risquent leur tête potentiellement. Oui, vous avez pléthore hein, d'exemples historiques. Ce n'est vraiment pas une vue de l'esprit, c'est une réalité historique. Donc du coup, dès qu'il y a un événement climatique extrême ou un autre événement, hein, je pourrais parler des incendies, je ne sais trop quoi, ça va donner lieu à un débat au sein de ce qu'on appellerait aujourd'hui le conseil municipal. Donc c'est vraiment un jalon qui est génial pour nous historiens parce que c'est des séries qui sont homogènes, chronologiquement, et elles sont standardisées au niveau textuel. C'est neutre. Hein. Là-dedans, vous ne trouverez jamais d'interprétation religieuse. C'est le problème d'avancer la chronologie sur le Moyen-Âge, vous tombez sur les chroniques religieuses, les annales. C'est difficile de trouver des livres de raison, des choses comme ça. Et du coup, là, vous livrez quand même un travail d'exégèse de type talmudique sur des textes religieux catholiques. Moi, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Pour l'instant, je suis rebuté par ces interprétations. Je considère qu'elles ne sont pas suffisamment fiables. En revanche, dès les années 1400, 1450, oui, c'est de l'or en barre, incontestablement. Après la construction des États modernes, vous avez les archives produites par les structures administratives d'État. Alors, je parle des intendances, mais ça pourrait être les shires en Angleterre ou ailleurs, l'équivalent des États princiers dans le monde germanique. Hein, j'en passe, c'est les meilleurs. Sur le littoral en France et en Angleterre, là aussi, c'est pain béni. Vous avez les archives de circonscriptions maritimes spécialisées, les amirautés. Sachant que les amirautés françaises sont inspirées du modèle anglais, chronologiquement. Donc, si vous voulez démarrer votre chronologie plus tôt, il vaut mieux aller côté anglais et ensuite continuer avec les Français, mais seulement à l'extrême fin 17e. Et encore, une de mes étudiantes avait travaillé sur les archives de la marine à Cherbourg. C'était Delphine Le Petit, hein, qui avait vraiment, je vous conseille, son mémoire est déposé hein, à la bibliothèque. C'est un très, très bon boulot. Elle était la première à scoltiner au rapport de mer de la Royale, donc de la marine de guerre. Et en fait, les rapports de mer devenaient vraiment obligatoire et systématiquement rédigé par les officiers seulement vers 1720-1730. C'est un petit peu tardif. Côté anglais, vous pouvez démarrer avec ce type de source vers 1620-1650. Donc c'est pas mal. C'est pas parce que les Anglais sont plus intelligents que les Français. C'est parce que les Anglais ont toujours eu une conscience plus claire des intérêts stratégiques liés au domaine de la mer qu'autre chose. Les Français, c'est venu plus tardivement, puis de manière, je dirais, discordante, diachronique, enfin tout ce que vous voulez, avec des ruptures, c'était vraiment par à coup. Chez les Britanniques, oui, c'est une constante, pratiquement une constante depuis le Moyen-Âge, hein, quasiment. Donc ils ont produit aussi de la paperasse, hein, comme les Français. Mais c'est amusant de changer de pays, parce que jusqu'à ces stages dans le monde anglophone, j'affirmais qu'il y avait véritablement une exception archivistique française. Finalement, ils ont aussi produit de la paperasse, ils ont été aussi bureaucratiques, mais en fonction de leurs intérêts stratégiques, tout bêtement. Archives administratives, je vous ai parlé là, de l'océan Indien. On a découvert avec Jérémy de Sarthe là, les archives de la Compagnie des Indes et on a le pendant anglais de la Compagnie des Indes. C'est une pure merveille parce que forcément, quand il y avait un cyclone, ça perturbait les liaisons maritimes et puis encore, ça détruisait tout le système esclavagiste. Vous aviez des dizaines d'esclaves, parfois des centaines qui étaient morts et du coup, ils étaient très sensibles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, c'est cynique ce que je dis, mais on comptait les morts noires. Hein, les esclaves, parce que c'était très très important. Brutalement, on ne pouvait plus produire de sucre, on avait perdu les deux tiers de la main-d'œuvre. Donc ça allait impliquer des nouvelles commandes d'esclaves, le renvoi de bateaux. Alors généralement, en fait, la Réunion, pareil dans ces archives de la compagnie, majoritairement ils viennent d'Afrique de l'Ouest, côte du Sénégal, et dans une moindre mesure de Madagascar. Donc on a des traces en permanence avec une description du phénomène. Et ce qui est intéressant avec la Compagnie des Indes, c'est que c'est un état dans l'état. C'est-à-dire que vous avez l'approche maritime de l'événement extrême de la tempête et l'approche continentale, puisqu'ils ont les domaines sur la terre ferme. Donc, ils vous indiquent les autres effets d'un cyclone, comme les inondations, ce qui importe beaucoup aux gens de Météo France aujourd'hui. Et enfin, le fort privé. Alors, le fort privé, pour les non-historiens, ce sont les journaux intimes, les livres de raison, toutes ces petites choses-là. Et puis, les chroniques des établissements religieux. Alors, sachant quand même, parce que j'étais un petit peu méchant avec les productions religieuses, à compter du 16e, 17e, les religieux catholiques produisent quand même des choses neutres. Eux aussi produisent de l'administratif. Donc des comptes, des choses comme ça qui vont vous permettre de repérer par exemple des tempêtes. L'abbé de Troarn a bien répertorié ces tempêtes parce que ça faisait de la casse dans les toitures et ainsi de suite. Il devait rembourser les toitures. Donc vous avez l'événement qui est parfois détaillé. Ils vont indiquer où, quand, pendant combien de temps. Parfois même s'ils font du zèle, ils vous indiqueront le sens des vents. C'est pas impossible. C'est plus sûrement une donnée qu'on trouve dans les administrations d'État, ce genre de choses quand même. Enfin, les données instrumentales. Alors, on considère que les instruments, les données statistiques, si vous préférez, ne sont produites qu'au XXe siècle, fin XIXe siècle. Absolument pas. Vous avez un exemple à droite, c'est toujours mon négociant de La Rochelle. Ce sont des données instrumentales. C'est un particulier négociant qui fait de la météo. Et il en fait, on commence à en faire en France. Là, la France est vraiment un pays pionnier. On commence à faire de l'instrumentalisation, astronomie, chimie, biologie et météorologie, en France, dès la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est vraiment très, très précoce. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a une série de températures en France qui débute en 1654, qu'on a publiée dans une revue internationale il y a 3-4 ans à peu près, qu'on a reparamétré, qu'on a calibré. Donc là, on a essayé de travailler avec d'autres sciences. Mais c'est envisageable. Nous, notre négociant, pourquoi fait-il de la météorologie? Alors, traditionnellement, les historiens culturels vont vous dire « Ah, c'est parce qu'il y a un phénomène de mode. » C'est pas faux. Il y a vraiment un phénomène de mode, une curiosité pour la chose scientifique. Mais en fait, dans le cas de ce négociant, à un moment donné, il lâche le morceau dans son livre de raison. Il dit « Mais moi, j'ai des intérêts économiques qui sont très importants. » Il est calviniste. Il a un réseau commercial qui est connecté à des têtes de pont maritimes qui sont la Grande-Bretagne. Il parle des pays de la Hanse. Il utilise encore le terme de Hanse. On est donc 1784, fin 18e siècle. Il a des correspondances en Belgique, Pays-Bas, pas avec l'Europe du Sud, pratiquement pas. Et du coup, il considère qu'avoir des infos sur la météorologie, ça peut être un moyen d'anticiper. Alors, pas une catastrophe naturelle, il n'a pas la fibre sociologique, encore que c'est vraiment quelqu'un de bien, ce type. C'est quelqu'un de bien, s'appelle Jacob Lambert. Mais la priorité quand même pour lui, c'est d'anticiper un effondrement des cours ou éventuellement pouvoir spéculer sur les cours parce qu'il est partie prenante dans un des grands marchés nationaux des grains, c'est celui de Marans. Il vend des quantités de blé, il les fait venir de l'extérieur, de France ou de l'étranger, il les commercialise, puis il essaie de jouer sur les périodes. Donc s'il a de l'information météo, il en déduit qu'on va rentrer dans une phase humide, que du coup le prix du blé va augmenter, est-ce qu'il faut faire de la rétention? Là, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, qu'on dénonce tous les jours dans la presse, je suis vraiment navré de vous le dire, mais moi j'en trouve des quantités d'exemples dans mes archives en permanence. Vous verrez à Paris pendant les périodes d'extrême climatique, il y a la municipalité qui intervient fortement avec milice, qui fait des réquisitions parce qu'il y a des marchands de blé qui refusent de vendre sur les marchés. Donc c'est la milice urbaine qui fait des descentes. Ils vont chercher même des bateaux de blé qu'ils ont payés et qui sont bloqués sur les marchés de la Marne, si j'ai bon souvenir, et ils envoient des troupes là-bas pour récupérer leurs bateaux. Donc, quand aujourd'hui on dénie à la municipalité de Paris, par exemple, le droit d'intervenir sur le marché, historiquement, ils l'ont fait, refait. À une époque, on avait des élus plutôt conservateurs, catholiques, etc. C'était un devoir moral. Ça s'est fait. C'est important, parce que la municipalité de Paris aujourd'hui essaie de récupérer des régies qui ont été abandonnées il y a 10 ans. Donc, l'histoire peut aussi servir à cela. Bon, mais je vagabonde. Veuillez m'excuser. Bon, sur le plan iconographique, alors vous allez sourire, on a des petites peintures, c'est typique des pays catholiques, ça. Alors, pas en pays protestants, même dans les pays de marins, mais les catholiques ont une pratique culturelle qui consiste, quand vous affrontiez un événement dramatique, familial, météo, etc., et que vous en réchappiez, à offrir au bon Dieu, mais rarement au bon Dieu en fait, plutôt à la Vierge et à ses saints, les intermédiaires, un remerciement, un ex voto, sous forme de petites peintures. C'est vraiment typique des pays catholiques. On en trouve. J'en ai jamais trouvé dans les pays protestants. J'en ai discuté avec des amis allemands du nord de l'Allemagne. En Angleterre, c'est introuvable. Même les catholiques anglais n'en ont pas produit. Ils sont sous influence protestante, donc il n'y en a pas. En revanche, en Normandie, en Bretagne, etc., c'est superbe. C'est superbe. C'est une source de première main pour les historiens de l'art, notamment de l'art populaire, je pense. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas capable d'interpréter. Et finalement, pour l'historien du climat aussi, parce que côté français, ils font la peinture, ils dénoncent l'événement, ils décrivent le bateau, la description de l'événement lui-même météo est très discutable, vous avez une énorme vague, le but c'est de montrer quand même qu'il y avait un extrême danger pour les marins, mais ce qu'ils font de bien côté français, c'est qu'ils datent l'événement. Ça c'est très précieux. C'est rarement le cas des ex-voto espagnols. Pour travailler dans le cadre de programmes européens, mes collègues m'envient. Ils disent, tu as une collection, un corpus, il suffit que tu lises tes dates et tu peux déjà reconstruire pratiquement une série chronologique. Je pense, moi, qu'il faut croiser les sources et qu'on ne peut pas se contenter d'un gisement. Et la presse, bien entendu, hein, la presse. Alors là, j'ai mis 19e siècle, je suis en train de découvrir le contenu de la presse anglaise au 18e siècle. On est à Cambridge, ils sortent un journal à partir de 1680, le Cambridge Chronicle. Mais c'est une pure merveille, c'est ce que les Anglais appellent un hub. C'est vraiment un cœur qui draine l'information du monde entier. Ils ont déjà une espèce d'empire de Commonwealth. Je travaille sur un volcan, le Laki, en 1783. Ils ne connectent pas, mais je vois tous les signalements des effets du Laki, quasiment à l'échelle mondiale, entre les marins qui sont rentrés d'Asie dans le port de Londres, des intellectuels qui sont revenus d'une visite en Allemagne, etc. Vous avez une presse qui est beaucoup plus démocratique, beaucoup plus ouverte. La presse française est triste. C'est surtout, enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, un petit peu spécialistement, mais moi, je perçois cette presse française sous l'Ancien Régime comme un relais vraiment politique. Là, la presse anglaise, elle est très, très riche. Or, il y a des trucs très amusants. On a trois parties dans le Cambridge Chronicle. Vous avez la partie politique, il y a tous les débats du Parlement, systématiquement, vous pouvez, mais vraiment, c'est un gros morceau, je ne sais pas si les Anglais à l'époque se passionnaient pour ça, bon, c'était les élites qui disaient le journal, bien entendu. Ensuite, vous avez deuxième partie, le national, non, l'international, excusez-moi, le national, et on descend à l'échelle régionale, Cambridgeshire, par exemple, et vous avez un universitaire de Cambridge qui fait du jardin, mais ça c'est traditionnel encore aujourd'hui en Grande-Bretagne, et il décrit les effets des brouillards du volcan sur son potager. J'ai amené ça à un collègue qui est physicien, chimiste, mais il en baillait des ronds de chapeau. Voilà. Hein? Bon, donc l'historien, c'est qu'un chasseur-cueilleur, un opportuniste, hein, qui glane, qui trusse, qui, etc., mais qui peut faire de belles choses finalement quand il arrive à synthétiser. Donc voilà, ces archives, que peut-on produire? Alors quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu plus rébarbatif, c'est de la reconstruction statistique. Et on doit en faire, hein, nous. On nous attend au tournant, puisqu'on travaille avec des sciences dures. Et vous avez là les fluctuations en effectif des événements de type submersion. Et on avait rajouté à l'époque les tsunamis en bleu marine. On ne va pas le commenter, simplement repérer. On a des périodes de très fortes fluctuations, plus forte qu'à l'époque contemporaine, notamment au XVIIIe siècle. Ce sont des effectifs. Ça n'indique pas la sévérité. Hein? C'est-à-dire que je ne peux pas dire que dans ces effectifs, on a des xintia. C'est un nombre de submersions, ça envahit les terres, ça a fait des dégâts, ça a éventuellement tué des gens à une date donnée. Donc je fais une addition. Rien de plus. Vous avez donc le XVIIIe siècle et la seconde moitié du XIXe et première moitié du XXe. J'insiste là-dessus. Regardez, passé les années 1950, il n'y a pratiquement plus d'événements. C'est vraiment important, si vous gardez à l'esprit les mots-clés de la presse de 2010, inédit, exceptionnel, jamais vu, incroyable, imprévisible. Et en plus, ces deux événements-là que j'ai répertoriés entre 50 et 2010, hein, ce sont pour la plupart sont des épiphénomènes vraiment très localisés, à part Xintia. J'ai rajouté quelques jalons pour vous guider. Hein, c'est un peu de la maïeutique, là, ce que je suis en train de vous faire. C'est-à-dire que depuis les années 50, on n'a plus d'événements au niveau statistique du terme et météorologique, très peu. Dans le même temps, cette région, comme une bonne partie de l'Europe, mais surtout les régions littorales, ont connu quoi? Vous le savez, un phénomène d'exode rural. C'est-à-dire que les témoins de la mémoire sont partis, ont dû s'expatrier. Généralement, les Rochelais, les Vendéens sont partis à Paris comme fonctionnaires. Il y a beaucoup d'anciens policiers dans les îles, là, les anciens que j'ai pu interroger. Dans le même temps, mouvement inverse à partir plutôt de 80-90, rappelez-vous, Tony Blair, Lionel Jospin, tous les étés se rencontraient sur l'île de Ré, etc. Phénomène inverse, le problème, certes, on a du repeuplement, mais c'est du repeuplement allochtone. C'est pas des indigènes. Donc eux, ils vont pas ramener mémoire du risque littoral quand ils se réinstallent, même s'ils réoccupent d'anciennes maisons. C'était le cas, si je m'en souviens, de la famille Blair. Il y a une jolie maison aux portes. Troisième phénomène, rupture de génération. On assiste physiquement à la disparition des anciens pendant cette période. Cette rupture de génération va entraîner quoi mécaniquement? Une rupture mémorielle. Le souvenir disparaît. Donc, vous comprenez assez aisément que dans le même temps, les décideurs, victimes ou non d'une rupture mémorielle, parce qu'on peut penser que les décideurs locaux vont aller chez les communautés de communes ou des communes, a priori c'est les gens du pays, ils ont quand même accès à une connaissance plus ancienne. Toujours est-il que progressivement, on le voit dans les archives, j'ai demandé dans le cadre de l'expertise aux collègues de travailler sur l'histoire de l'entretien des digues depuis 1900. Et on voit très bien les budgets d'entretien s'effondraient à partir des 1950, avec une accélération terrible à l'apogée des Trente Glorieuses dans les années 60-70. C'est vraiment important. Et ça, c'est du travail d'historien, mais finalement, c'est vraiment productif. Hein. On comprend pourquoi beaucoup ont été surpris. Et ailleurs, est-ce que c'est la même chose? Alors voilà, on peut cartographier. J'ai des étudiants qui sont historiens et qui font de la cartographie. Ils savent manipuler, je leur ai payé. C'est l'avantage de répondre aux appels d'offres. C'est peut-être trivial, mais on a de l'argent. Et j'ai payé à deux doctorants une formation en CIGE et ils savent faire des cartes. Donc tout a été géoréférencé. Ben, c'est rare en histoire, c'est très rare. On ne nous apprend pas à faire ça. Moi, on ne m'a jamais appris. Bon, moi, j'ai un double cursus. J'ai fait de la cartographie, mais à une époque, on ne faisait pas de CIGE. Donc, j'ai perdu, je n'ai pas pu rattraper le train. Hein. Donc, ils cartographient. Ça, ce n'est pas de la cartographie géoréférencée, hein, bien entendu, mais ils le font aujourd'hui. Vous voyez, on l'a réparti sous forme de pastilles par siècle, les événements, le numéro, le nombre d'événements par siècle. Bref, vous l'avez vu sous forme statistique, vous le voyez sous forme de cartographie. On ne pouvait absolument pas être surpris. On commandait une étude à des historiens et on savait qu'il y avait toujours un risque à la veille de Xynthia dans la région. Et ailleurs, région méditerranéenne, voyez. Alors, je mets des points d'interrogation parce qu'on a vraiment bâclé le travail pour la période la plus ancienne, on n'avait pas le temps. Mais c'est intéressant quand même, regardez à nouveau ce pic au XIXe siècle et cette rupture d'événements qui devient sans doute une rupture mémorielle et peut-être une rupture technique, c'est-à-dire qu'on n'entretient plus les ouvrages de défense, j'en sais rien, je ne connais pas suffisamment, pour le rivage méditerranéen français. Recartographie, alors c'est intéressant, ça permet de définir un petit peu l'importance du risque dans ces régions. Il est vraiment très important. Il passionne les réassureurs. Hein. C'est d'imaginer, quand je représente des événements historiques, le coup que ça représenterait aujourd'hui. Et vraiment, ils sont en état de transe. Hein. Ils se regagnent. Et ils appellent un petit jeune qui est modélisateur. Ils disent, vite fait, tu chiffres toi, combien? Alors, il est discret, hein, un creux de l'oreille. Puis le responsable blémit. Nice, hein, on est à Nice, on est à Cannes, on n'est pas loin de Monte-Carlo. Ils mettent la clé sous la porte. Hein. Littoral normand, pareil, travail un petit peu bâclé, mais ce sera de courte durée. Bon, on repère quand même ce pic et pratiquement une absence d'événements, mais j'aurais voulu quand même en rediscuter avec Stéphane. Je pense que Stéphane a peut-être davantage de références historiques pour la période plus contemporaine. Mais a priori, peu de choses depuis 1950 aussi. Cartographie, donc, de quelques événements historiques. Alors, la zone à risque, effectivement, c'est le Cotentin. Il y a du tsunami hein, aussi. À l'échelle de l'Europe, il faut toujours éviter la surinterprétation. Alors, à l'échelle d'Europe, là, c'est un exercice assez bétifiant. On a répertorié les effectifs d'événements du même type en comparant, en fait, c'est moi qui l'ai fait, entre les événements littoral atlantique français et mer du Nord. Pourquoi mer du Nord? Tout simplement parce qu'on a déjà une série existante. C'est une référence que vous pouvez parcourir, un excellent ouvrage paru en 80, dans les années 80, mais vous l'aurez en référence à la fin, aux presses de Cambridge. Ce sont les tempêtes dans l'Atlantique, dans la mer du Nord. C'est superbe, donc le gars s'appelle Land, il a fait un très gros travail. Il a utilisé une échelle, mais qui est trop complexe, qui n'est pas utilisable pour les modélisateurs ni pour les météorologues, donc c'est vraiment une limite de taille. Donc aujourd'hui, moi je recommande à mes étudiants de travailler avec les échelles existantes, les échelles des météorologues, parce que sinon on ne peut pas dialoguer avec eux. Alors, ça crée des problèmes dans le cadre de mes collaborations avec mes collègues historiens. Mes collègues ont beaucoup de mal à accepter l'idée qu'on passe sous les fourches codines de la méthodologie des autres. Et ça me met en porte-à-faux, ça met en porte-à-faux mes étudiants. Je ne parlerai pas de perception de type trahison, mais on n'en est jamais très loin ou trop loin. Ils considèrent qu'on n'a pas à quantifier, on n'a pas à répondre à leurs attentes. Je passe outre depuis pas mal d'années, mais c'est un vrai débat hein, dans notre discipline. C'est un énorme débat. Tant qu'on ne l'aura pas réglé, on n'a pas réglé le gros problème de cette histoire-là. Cette histoire-là, hein, cela dit, ne prétend pas occuper tout l'écosystème historique. C'est une tendance, c'est un courant, on dirait en politique, c'est ça. Rien de plus, rien de moins. Et qui, en plus, n'interdit pas la collaboration et la cohabitation avec les courants plus traditionnels de l'école historique. Donc, je ne vois pas où est le problème majeur. Ils ont quelques souvenirs, nos voisins européens du Nord, très, très mauvais souvenirs. C'est ce qu'ils appellent en Allemagne, Schleswig-Holstein ou au Danemark, les Mendrenke, pardon. Littéralement, les abreuvoirs d'hommes. Des inondations qui ont absorbé les hommes, qu'ils ont fait disparaître, donc des taux de pertes très très élevés, qui se chiffrent par milliers et milliers. Et plus mauvais souvenir, c'est un événement au Moyen-Âge, au XIVe siècle, que je n'ai pas répertorié ici, et celui de 1634, qui a été, comment dire, qui est passé à la postérité sous forme de documents iconographiques. Vous aviez un exemple tout au début de l'exposé. Très important, 8 à 15 000 morts, on ne sait pas très bien. Un impact géographique ou côtier, comme vous voulez, inimaginable, puisque ça a profondément remodelé toute cette région. Une partie de l'actuel land du Schleswig-Holstein a disparu, une partie de la côte danoise, et ça a donné naissance à l'archipel des Strände. Si vous connaissez, vous regarderez sur une carte. Sur le plan humain, les gens ont été tellement démoralisés, il y avait de quoi. Ça, il y a eu un mouvement migratoire, ce qu'on peut appeler ça une migration climatique, j'en sais rien. Ils étaient plutôt protestants, ils sont partis aux Pays-Bas, donc ils n'ont pas travaillé eux pour le roi de Prusse comme Voltaire, mais ils ont travaillé pour les Hollandais, les Flamands. Et deuxième événement dramatique, toujours dans la même région, c'est 1717, donc hein, les rémissions quand même sont finalement assez courtes, entre 1634 et 1717. En plus, 1634, toute la région est ravagée par la guerre de 30 ans. Ils ont appris, me raconter un code légalement, ils sont ravagés également par la peste. Donc on a eu vraiment un territoire du vide, une diagonale du vide, ça avait la forme d'une diagonale, pendant une paire d'années dans cette partie-là de l'Allemagne, durablement. Donc ça impacte hein, les sociétés. Il y a aussi une influence historique. Alors, je ne prêche pas comme les anglo-saxons hein, qui expliquent la fin de l'Empire romain. C'est quand même sorti dans Science il y a peu de temps parce qu'ils ont cité l'exemple du Rhin gelé en omettant de dire qu'ils passaient le Rhin non gelé déjà depuis un moment, hein, les barbares. Mais ce n'est pas ça non plus. Je pense que ça, c'est une posture extrémiste, vraiment extrémiste au niveau scientifique. Mais ça a joué. Ça a joué, ça a déplacé des populations, ça a pu alimenter des tensions déjà existantes ou préexistantes. Ça a joué. Deuxième événement, ça c'est important, je passe les autres détails historiques, mais ça c'est vraiment important, je vous ai vanté le retour d'expérience des Hollandais et des Allemands. Alors, sont-ils meilleurs que nous? Ils ne sont pas meilleurs que nous. Eux, depuis 1950, ils ont affronté deux désastres qu'on a visiblement très peu médiatisé en France à l'époque. C'est mais vraiment un traumatisme profond dans les sociétés britanniques et hollandaises et belges. Le premier, c'est le désastre 1953, vous avez là-haut. Pour moi, c'était typiquement ça, et concernait surtout la Hollande. Et puis, je suis à Cambridge depuis un certain temps, je raconte un peu ce que je fais, quand il s'intéresse, je travaille pas mal avec des géographes, et puis plusieurs me disent « Ah, mais tu sais, 1953 était un désastre, je suis d'origine écossaise, j'ai perdu mon père, ma tante, une partie de ma famille, etc. » 1953, la Grande-Bretagne, la Hollande se remettaient de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu alors une vague qui a balayé tous les systèmes de défense. La mer a pénétré pratiquement sur 30 km dans des zones qui étaient déjà très très fortement urbanisées. Ça a été un désastre absolu. Il y a des centaines de familles, apparemment peut-être même des milliers, qui en ont encore un souvenir très très précis. Et côté allemand, ils ont subi 1953, mais dans une moindre mesure, les Allemands, eux ont eu affaire à un autre désastre qui est resté comme étant un vrai traumatisme en 1962. Vous avez peut-être entendu parler, c'est le désastre du Schleswig-Holstein une nouvelle fois, et en particulier, désastre urbain, c'est la ville de Hambourg. En 1962, le tsunami, enfin tsunami, excusez-moi, submersion, c'est une erreur, s'est produit dans la nuit, dans Hambourg, vous imaginez la taille de la ville, surprise totale, 300 morts. 300 morts. Les pertes ont été limitées grâce à l'intelligence, à la réactivité de l'élu local de l'époque que nous connaissons tous, qui s'appelait Helmut Schmidt, qui était le sénateur de la ville, l'équivalent de maire. Et ce bonhomme, apparemment, avait des liens avec l'OTAN à l'époque, les bases de l'OTAN dans la région. Il a réussi à soustraire aux unités de l'OTAN du coin des dizaines, peut-être des centaines de camions, je ne sais pas exactement. Il a réussi à évacuer la population. Le gouvernement allemand était incapable de faire face. Et apparemment, ça a été un levier qu'il a propulsé dans sa carrière politique. Je ne pense pas qu'il en ait fait la promotion, c'est quelqu'un de modeste, mais ça lui a vraiment servi. Son aptitude à gérer une crise de ce type à Hambourg a été un plus dans... il a fini chancelier, il a été renouvelé à deux reprises au moins, Schmidt. Hein, il commence en 1974, si bon souvenir, puis il doit finir au début des années 80, non, Helmut Schmidt. Mais pour vous dire quand même qu'il y a toujours un lien entre le social, l'événement extrême, et qui explique aussi, ces deux événements contemporains, expliquent que les Hollandais et les Allemands soient beaucoup plus sensibles à ce risque. Et là, je décharge un peu de sa responsabilité morale notre patrie et la vieille France. Les Allemands étaient encore sensibles. La mémoire est préservée. En plus, en Allemagne, après le désastre de Hambourg, comme en 1953, on a multiplié, ce n'est pas le bon terme, mais par commodité, j'appellerais ça les lieux de mémoire. des endroits où on mémorise, où on met des hauteurs de la submersion, des plaques, ici est mort un tel, partout dans les tissus urbains du Danemark, des villes danoises, de Hambourg, il y en a vraiment beaucoup. J'ai fait les photos, je vous montrerai, des collègues allemands m'en ont renvoyé depuis. Les Anglais commencent à le faire depuis un certain temps, mais en Angleterre, il y a de forts enjeux d'urbanisation, donc ça ne passe pas bien comme en France. Il y a un gros boulot à faire. Mais c'est intéressant, ça montre un petit peu, ça explique le différentiel entre ces pays-là et le nôtre, par rapport à Zintia. Alors, rapporté sur une période séculaire, voilà ce que cela donne. À nouveau, ce 18e siècle qui se distingue en mer du Nord comme en France, sur l'Atlantique. Et puis, un aspect plutôt trompeur pour le 20e siècle, on a l'impression qu'on est à égalité. En fait, côté français, les événements précèdent 1950. Et côté européen, on a deux événements postérieurs à 1950. Alors, à partir de là, on a fait une reconstitution. On avait essayé de chiffrer. Parce que très rapidement, dans nos archives, on a mis la main sur un événement sans doute beaucoup plus extrême au niveau météorologique que Xintia. C'était une submersion atlantique en mars 1937. Aucune trace dans les bases de données de Météo France. On est en 1937. Faire de l'histoire jusqu'en 1937, c'est l'enfance de l'art. Hein. Ce n'est pas à la portée des seuls historiens. Hein. On est bien d'accord. Donc Météo France s'est senti, était très très contrarié. Qui vendent leur base de données, hein. Ils font beaucoup d'argent, hein. Il y a des enjeux financiers très très importants, et pourtant à l'époque ça a été un choc médiatique, sans doute un des premiers, et un choc national, et pour cause. Photo en haut à droite, là c'est ouais, je ne sais plus quel c'est le journal, West Eclair, oui je crois que c'est West Eclair, la maison natale de Clémenceau était menacée par les vagues. La vague a approché de quelques mètres la maison natale de Clémenceau, donc c'était la nation qui était en péril, ni plus ni moins. Vous avez quand même le titre qui donne froid dans le dos, véritable raz-de-marée. Il déferle sur les côtes de l'Atlantique. On se dit, est-ce que déjà les médias étaient victimes du syndrome du catastrophisme, qui rapporte, etc. Ben, pour une fois, non, absolument pas. Mes étudiants ont cartographié, on a reporté toutes les données météorologiques qu'on avait. Et c'est très très intéressant. Rappelez-vous, je vous ai donné les caractéristiques de Xintia peu de temps avant. Eh bien alors allons-y, scénario de mars 37, très violente tempête, pression de 973 hectopascales, seulement 970 en 2010, coefficient de marée 138 en Normandie, 109 Sud-Bretagne, 102 à La Rochelle, c'est Xintia, orientation des vents sud-sud-ouest, donc vraiment le même scénario météorologique, et déjà à l'époque, la faute sur mer, attention quand j'utilise la faute sur mer, le territoire de ce qui deviendra la ville de la faute sur mer avait été concerné par une submersion. Mais son cas, hein, c'est un événement assez anodin. Mais c'est intéressant quand même, parce que les pouvoirs publics ont affirmé qu'on ne savait pas qu'il y avait un risque dans ce secteur-là. Donc là, cette fois-ci, en 1937, l'espace littoral qui avait été concerné par l'événement allait de la frontière espagnole jusqu'au Sud-Bretagne. Donc on a reporté les coefficients, les marées, etc. Donc Météo France a vu que c'était solide, mais les archives existent, hein, je le répète. Alors, il y a eu des zones qui ont été plus impactées que d'autres, comme l'on dit, en particulier l'île de Noirmoutier. Vous avez la déclaration d'un élu du Conseil général qui dit que la région de Noirmoutier a été en péril de disparaître. Ça a été effectivement le cas. Et c'est vraiment un cas d'école. Parce que quand on compare avec Xintia, on n'a pas bien compris pourquoi les digues n'avaient pas tenu le coup. En fait, dans le cas de Noirmoutier à l'époque, les vagues n'ont pas pu pénétrer du côté du littoral de l'île où on avait maintenu les secteurs, les portions du nerf. Et en fait, l'eau a pénétré de l'autre côté, côté continental si vous préférez, pour éventrer ou submerger les digues. Donc l'inondation, elle est venue de la terre, enfin du côté terre si vous préférez. Mais on n'a pas eu de submersion du côté le plus exposé, vers le large. Tout simplement parce qu'à cette époque, on avait encore ce système défensif naturel ou qu'on peut préserver, entretenir, c'est le système des cordons du nerf, qui est vraiment au cœur du débat actuel. Pour faire simple, la dune, ça a été l'ennemi à abattre depuis une vingtaine d'années, dans le cadre des programmes de durabilisation. Les vagues ont pénétré, ont vraiment sectionné l'île, et ont pénétré à l'intérieur des terres. Les lignes rouges correspondent au secteur de digues. Et les digues ont été impuissantes à contenir, à endiguer, c'est le cas de le dire, les vagues. L'eau a pénétré sur 5 km. La ville, à l'époque de Beauvoir-sur-Mer, a été complètement retranchée du restant du monde. Comme aujourd'hui, plus d'infrastructures routières. Les poteaux sont tombés. Forcément, quand il y a une tempête, il y a du vent. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'État diligente des enquêtes qu'il confie à des agences privées. Ces agences trouvent, c'est vraiment la substantifique moelle des systèmes de prévention, on fait des alertes SMS aux gens. Les gens ont des SMS, on les lance. C'est oublié un petit peu vite que notre réseau de transmission de communication en France, à tort ou à raison, hein, je ne juge pas, il est aérien. Qui dit tempête, dit vent fort. Les premières victimes, avant même les gens, les infrastructures, sont les poteaux qui tombent. Donc la plupart du temps, les collectivités locales, les communes, sont retranchées du monde en l'espace de 5 ou 10 minutes. Donc l'information ne peut plus passer. Mais l'absence d'approche intégrée est vraiment peut nuire gravement à la santé des gens, indiscutablement. Les dommages ont été très importants, je vous passe les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'événement ravive une mémoire. La mémoire de la dernière tempête en 1877. C'est intéressant au niveau, là aussi, dans une perspective davantage d'histoire culturelle. Comment les sociétés préservent? Est-ce qu'elles sont capables de se mémoriser les plus mauvais moments seulement au moment de la catastrophe en la vivant? C'est une bonne question, je suis incapable de répondre. Mais la citation m'avait vraiment intéressé, intrigué. Alors, on a refait les calculs avec les réassureurs, c'est très technique. On a comparé avec Zintia. Alors, si on calque leur portefeuille d'assurance sur le scénario de 1937, on arrive à quoi? Un total de dommages de 4,4 milliards d'euros, soit trois fois le montant de la branche multirisque de 2010. Et si on va un tout petit peu plus loin, non, c'était bien là, on arrivait donc à une multiplication, et c'est bien ça, c'est bien ça, 4 fois 4, soit trois fois le montant de 2010 de ce qui avait été payé. À partir du scénario 1937. Quand je vous disais qu'il se faisait peur, oui, c'est une réalité. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? C'est lié à une urbanisation plus près de l'eau. Ça, c'est de la terminologie du géographe et d'aménageur. Ce n'est absolument pas une approche d'historien. On est héritier, débiteur par rapport à la science géographique, heureusement. Donc, on a numérisé l'occupation des sols, on a comparé, on a saisi tout cela sous forme de CIG, et on arrive à peu près à la chose suivante. Actuellement, l'évolution de l'urbanisation par grande portion du littoral, donc la Manche, l'urbanisation a augmenté de 11% depuis les années 90. Côte Atlantique, plus 10%, Méditerranée, plus 13%. Donc c'est un comparatif 1990 jaune et 2011. Donc vous voyez, la tendance est très lourde et elle est valable, si je poursuis, pour toutes les portions du littoral. Voilà, en urbanisation. Et c'est intéressant, moi j'en avais pas conscience, l'assureur me faisait remarquer que dans le cas des Alpes-Maritimes, c'était 98% du littoral qui était urbanisé. Donc, aujourd'hui, ils ne peuvent plus conquérir de l'espace que sur la mer. Puisqu'ils sont acculés à la montagne, a priori. Bon, ils peuvent aussi construire en direction des montagnes. Alors tout cela relève d'une politique d'aménagement hasardeuse, mais je crois que vous commenciez à le subodorer. Urbanisation en zone sensible, c'est le pourcentage des communes dans la Manche, donc dans le secteur de la Manche, ce n'est pas le département de la Manche, 40% des communes sont concernées, côte atlantique 63% et Méditerranée donc 60%. Ça, ce sont des sources de réassureurs, elles sont, je pense, très fiables parce qu'ils sont vraiment très très sensibles aux risques. Je vous propose de varier les focales, comme l'on dit, d'aller à grande échelle, de prendre l'exemple sans doute le plus emblématique. Moi, j'ai parlé d'exemples paroxysmiques. C'est le secteur de Lens de l'Aiguillon. Donc, Lens de l'Aiguillon, ce sont quelques communes de type maintenant urbain, de type urbain. Traditionnellement, l'Aiguillon-sur-Mer, puis la Faute-sur-Mer. Et on a comparé ça avec les étudiants, avec les cartes topographiques, et ce qu'on appelle les cartes d'état-major. Eux m'ont refait une cartographie à la clé. Et vous avez donc le secteur de Lens de l'Aiguillon, fin 19e siècle. Qu'observez-vous? Que la seule zone urbanisée concerne l'Aiguillon-sur-Mer. Donc zone qualifiée de non-submersible, la partie rose, en haut à droite, le cartouche. Mais l'Aiguillon, à l'époque, on n'est pas stupide, l'Aiguillon se développe derrière un premier cordon dunaire, qui est le long, sur la rive gauche, de la Lay, c'est là, hein, c'est féminin, pas le Lay. C'est le Lay, alors du Lay, pardon, merci, du Lay. Donc il y a un premier fusible, ce que j'appelle moi un fusible défensif. Deuxième fusible, cette fois-ci tourné vers la mer, c'est le cordon dunaire sur lequel, justement, à compter des années 50-60, on construit la Faute-sur-Mer. Alors comment on a construit la Faute-sur-Mer? Pour la petite histoire, c'est aussi de la grande histoire, on a arasé une bonne partie du cordon dunaire. En 1889, on a une cinquantaine d'habitants, en fait, ce sont des cabanes de pêcheurs. Donc, mes 50 habitants sont protégés par le cordon dunaire, par cette flèche dunaire. Donc, pas de risque particulier. En 1937, ils sont touchés. il y a quelques digues qui sont éventrées. Les habitants montent au front. À cette époque, depuis le XVIe, XVIIe siècle, c'est les habitants qui ont bouché les trous. Il y a un sentiment de solidarité. On n'attend pas les pouvoirs publics, on intervient. Mais bon, a priori, les pouvoirs publics ne seraient pas intervenus. Mais en 1937, ils pouvaient. Les habitants y vont. Et les pouvoirs publics les aident, les épaules, en leur envoyant, et c'est l'Empire qui vient assurer le salut de la métropole, en expédiant deux compagnies de tirailleurs tunisiens qui vont travailler avec du béton, etc. Ils vont couler en urgence des blocs de béton, etc., dans les trous de la digue. Toujours est-il qu'en 1937, on a déjà un exemple de submersion qui n'a pas de conséquences dramatiques parce qu'il n'y a pas d'habitants. L'aiguillon n'est pas touché parce que l'aiguillon est parfaitement protégé. Regardez la deuxième carte, partie inférieure. La Faute-sur-Mer, la ville a été construite. En fait, elle est construite en dessous du niveau de la mer. On a dit qu'à cela ne tienne, avec la digue, ce sera protégé. Donc c'est le scénario du désastre, hein, combattu. Donc dans le courant des années 60, la commune de la Faute-sur-Mer est détachée en fait de la Tranche-sur-Mer de mémoire dans les années 60. Concret, ex nihilo, cette fameuse urbanisation galopante. Dans le même temps, à l'Aiguillon, on détruit aussi le deuxième fusible défensif, le fameux cordon. Donc on crée lentement, hein, lentement, assez rapidement et sûrement, moi je dirais, parce que les pas de temps sont courts, ce sont des pas de temps de 20 ans, on crée de toutes pièces une vulnérabilité. C'est là que l'historien du climat modère un peu l'approche du tout réchauffement climatique. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette affaire de réchauffement climatique permet aujourd'hui à pas mal de décideurs de se dédouaner. Démontrer ça par A plus B, c'est bien dire qu'en dépit du réchauffement climatique, en prenant quelques précautions, en maintenant des paysages en plus qui ont une vraie valeur écologique, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là, je ne suis pas le plus objectif, mais on fait d'une pierre deux coups, on fait de l'argent, on protège des vies et on améliore les paysages. Ce n'est absolument pas passé. Je l'ai présenté donc dans le cadre d'une audition globale avec des élus. Les élus ont été d'une agressivité qui défie l'entendement à mon égard. Ils m'ont traité de communiste, écolo, etc., qui voulait plomber la croissance du littoral français. Ça a été terrible, mais d'une férocité. J'ai pas lutté, ça servait strictement à rien. Mais c'est un vrai problème. Mais ce sont des vérités qui ne peuvent pas, qui ne passent pas. Enfin bref, voilà ce qui s'est produit. Hein. Vous avez un exemple vraiment très concret. Mais depuis, les géographes se sont penchés hein, sur le cas, l'ont confirmé. Alors voilà, image satellite, ce que ça a pu donner hein, à l'époque. Donc avant, après, dans le passé, comment réagissaient ces sociétés ? Je reviens à Ulrich Beck. En toute logique, ce sont des sociétés traditionnelles, archaïques, inadaptables aux risques, etc., etc. Je vous en passe. Hein, et les meilleurs. Alors ça, c'est une carte qu'on avait présentée à des élus à partir d'un plan ancien. C'était des zones inondables à l'occasion d'une tempête terrible en 1788 dont aucun élu rochelais n'avait le souvenir. Et les élus n'ont pas été prudents, ils m'ont dit présenter sans séance publique. Donc il y avait du public, c'était après Xintia. Puis il y a plein de gens qui ont dit, mais j'habite là. Et effectivement, c'était des terrains vagues à l'époque. Alors, moi, les élus m'ont dit, vous jouez le jeu, hein, vous dites, vraiment, détendez-vous, hein, monsieur Garnier, on vous invite, on est content de vous avoir. Donc j'avais des choses précises. Dans ce secteur-là, il y a une dame qui dit, il y avait combien d'eau ? Ben, 40 cm. Mais vous savez, ça a été remanié. Elle me dit, oui, c'était remanié. C'est tout bitumé maintenant, c'est sûr. Donc ça absorbera encore moins qu'à votre époque, hein, c'est évident. Et du coup, la séance a un peu dérapé. C'était assez. Bon, je trouve ça amusant. Hein, c'est du débat, au moins. Mais vous voyez ce qu'on peut produire comme données. Hein, très précise en cartographiant de manière quand même très fine, à très grande échelle, à l'échelle d'un parcellaire communal. Jérémy, aujourd'hui, là, sur la Réunion, il arrive à cartographier les zones inondables à Saint-Denis. C'est vraiment génial, parce que on superpose là-dessus le bâti actuel, on transfère, on voit les valeurs assurées, on voit de manière beaucoup plus fine. C'est pas la panacée, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de science exacte, quelle qu'elle soit. En revanche, c'est beaucoup plus précis que l'existant, c'est tout. Hein, faut pas commettre de péché d'orgueil hein, quand même dans cette affaire. Hein. Ce serait vraiment un grand péché. Deuxième aspect, société archaïque, vous avez toujours donc la vision de Beck. Société archaïque, donc ils ne peuvent pas se prémunir, elles subissent. Donc on s'est dit, on a un catalogue de nos événements extrêmes des submersions sur la côte atlantique. Ça va donc être un jeu d'enfant de croiser la chronologie des événements extrêmes avec quoi, les historiens ? Mais du registre paroissial. Eh oui, la logique veut Enfin, moi, c'est ce que j'ai posé aux étudiants en disant, la logique veut qu'on puisse discerner des pics de mortalité à chacun de nos événements. Ah, c'est des archaïques, ils ne peuvent pas se prémunir. On avait les plans anciens, vous allez en voir, l'île de Ré, d'Oléron, elles étaient tronçonnées en 3, 4, 5 parties. Il ne restait plus que des îlots. Là, vous avez un premier exemple, une des plus terribles submersions du littoral vendéen, charentais, c'est l'inondation 1736. Vous avez la moyenne des décès, aucune inflation des décès particulière. Je poursuis pour une phase plus longue. Là, vous avez un tsunami, 1785. Vous avez une superbe submersion en 1788 et enfin une autre en 1791. Pratiquement pas de traces. Les BMS ne répertorient que quelques cadavres de marins qui ont effectivement été surpris par la tempête en mer et qu'on retrouve échoués sur la plage. Mais dans les BMS des continents, des insulaires, une population stable pendant la tempête, parce qu'ils ne sortaient pas, les insulaires, ils n'étaient pas fous. Hein. Aujourd'hui, nos pêcheurs prennent parfois beaucoup plus de risques. Alors, ils mettent en avant la pression financière, c'est possible. Hein. Mais à l'époque, on ne sortait pas trop. Là, c'est des bateaux qui mouillent au large, qui ne sont peut-être pas sortis assez vite du port de La Rochelle, j'en sais rien. Je n'ai pas fait de recherche particulière. Ils ont été surpris. Il y a un marin ou deux qu'on retrouve sur les plages deux, trois jours après le passage de la vague. Donc là encore, pas de pic de mortalité particulière. Ce qui tue les gens sur l'île de Ré, c'est comme partout dans l'Europe d'Ancien Régime, ces épidémies prioritairement, les phases de disette, mais pas ces événements extrêmes. C'est quand même une découverte de taille. Pourquoi on fait ça au mieux? C'est un peu scolaire, mais si. Parce que ça me permet en tant qu'historien de rebondir sur un concept qu'utilisent les géographes, c'est la notion de résilience. Si j'ai pas beaucoup de morts pendant les événements extrêmes, c'est donc que les gens savaient, alors par résilience, c'est la capacité d'une société à absorber un choc et à repartir en quelque sorte. Une vision un peu édulcorée, vous avez des visions beaucoup plus complexes. Visiblement, ils absorbaient et repartaient. On n'a pas, dans cette portion du littoral français, sur 4 siècles, on n'a pas de déprise de la région réelle. Donc, faut-on en déduire que c'était plus durable? Je pense que oui. Et ça conforte donc mes définitions préliminaires au début de l'exposé, à savoir que le risque est perçu. Il n'est pas défini, mais ce serait plutôt, on a déjà beaucoup discuté avec Vincent Millot, on arrive à la conclusion suivante, c'est que finalement, le risque est une perception, sous l'Ancien Régime, au moins au début du XIXe siècle, je dirais même plus un sentiment d'attente. On sait qu'il y a un risque, on vit sur le Trécotis ou pas loin, on sait que ça peut se produire. Donc ça débouche sur une anticipation. Alors cette anticipation, elle revêt des aspects, mais vraiment très très nombreux, qu'on va passer mais très rapidement. En tout cas, tout simplement parce qu'on a conscience que cet événement peut provoquer une crise sociale. On parlerait aujourd'hui de catastrophe au sens étymologique du terme, une rupture, un inversement, un retour en arrière. Donc on a bien une perception du danger, une perception qui n'est pas fataliste, qui survit par le souvenir de la catastrophe passée. Vous allez me dire, vous avez la preuve, comment vous le démontrez, etc. Alors là, je parle de conscience collective d'une menace maritime, et plutôt que de culture du risque, moi je parlerai, parce que risque, c'est quelque chose de très conceptuel, très intellectuel, qui était beaucoup plus terre-à-terre, c'est plutôt une volonté de survivre, de survie. Alors comment on faisait ça? Certainement avec des paysages plus durables. C'est la partie de la démonstration la moins fouillée, la moins solide dans ce qu'on fait actuellement, parce que c'est très difficile. Mais ce qu'on observe, c'est que les digues, ce qu'on appelle aujourd'hui, les écluses, et qu'on appelle ici les pêcheries, avaient un rôle. Elles n'empêchaient pas la vague. J'ai beaucoup discuté avec les syndicats d'usagers locaux à Oléron, à l'île du Rhône. On a fait un gros travail d'ethnologue. Il y a encore des anciens qui les entretiennent. C'est pratiquement plus le cas en Normandie. Et eux vous expliquent, disent, mais elles avaient vraiment un rôle très très important parce qu'elles absorbaient une partie de la vague, elles l'atténuaient, très importante. Or, pour l'île de Ré et l'île de Léron, vous aviez une soixantaine d'écluses tout autour de l'île. Aujourd'hui, il n'en subsiste que 2 ou 3 parce qu'à partir des années 1900-1920, je ne sais plus quel est le service de la marine, les a systématiquement détruites, au mépris d'ailleurs des droits d'usage médiévaux des communautés. Pourquoi? Parce que c'était un danger potentiel pour les bateaux, entre autres avec le développement de la marine de commerce. donc début XXe siècle. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant, mais qui est vérifiable dans les sources. Donc il y a cet aspect-là. Deuxième aspect qu'on voit plus ou moins ici, il y a de meilleurs exemples, je ne pouvais pas tous les montrer, c'est le maintien de manière quasi systématique de cette fameuse zone tampon, je parlais de glacis stratégique. On n'a pas d'habitat concentré, même sous forme de village et encore moins sous forme de ville, à moins d'un kilomètre du trait de côte. C'est-à-dire qu'on applique quoi ? Sans pouvoir le nommer, sans pouvoir le définir, le principe de précaution, la mémoire d'un événement envisageable. Si vous rajoutez à cela aussi toutes les préoccupations hygiénistes, on a quand même très très longtemps considéré que la proximité avec la mer engendrait des milieux humides, etc., et que les gens étaient plus susceptibles d'être malades, on a effectivement peut-être une conjonction favorable. Il y a sans doute d'autres paramètres. Toujours est-il que ces paysages étaient certainement plus durables. Alors, à l'époque, rappelez-vous, ils montraient l'île de Ré qui était tronçonnée. Alors, c'est quand même incroyable, on n'a jamais vu ça. Bon, ben voilà, vous avez un plan ancien, celui-ci, fin 17e. Donc là, l'île, elle est en deux morceaux. On en a retrouvé où elle est en trois, voire quatre morceaux. Là où est la flèche, c'est intéressant parce que c'est là, sur ce point géographique que se sont focalisés les médias. Comme vous voyez ici, avec l'image aérienne qui doit provenir de la gendarmerie nationale. Oui, c'est ça. Pratique, hein, les gendarmes. Ne perdez pas de vue. À La Réunion aussi, on a bien aimé, nous, les rapports de la gendarmerie coloniale, impeccables sur les événements extrêmes. Du bon boulot. Autre exemple de résilience, ben, on s'est dit, les gens donc mouraient pas. Où étaient-ils au moment de l'événement ? Ces événements, hein, comme pour Dinta, ils se sont produits la nuit dans certains cas. Vous l'avez vu pour Noirmoutier en 1937. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas une mort à Noirmoutier. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des systèmes d'alerte très très efficaces, rudimentaires mais très efficaces. Sur l'île de Noirmoutier en 1937, il y a, dès que la mer grossit, vous aviez des gens, alors en 1937 c'est des pompiers volontaires, mais il y avait des gens pour la période antérieure qui allaient en observation. Et dès que la mer grossissait, ils l'observaient vraiment en temps réel. Et il y avait un réseau d'alerte qui n'utilisait pas les tam-tams africains, mais eux, le réseau, ce que j'appelle moi le réseau des clochers. Et ça a fonctionné à merveille en 1937. Le réseau s'est déclenché, il a traversé en diagonale toute l'île, les gens étaient prévenus très très rapidement, il est passé au continent, et qu'ont fait les gens ? Et ben, dans certains cas, les gens qui étaient de plein pied, il devait y en avoir, sont réfugiés, là les archives les nomment, les archives du 19e et 20e siècle, on s'est réfugiés dans les zones, là, je cite dans le texte, insubmersibles de mémoire d'homme. C'est-à-dire que ces populations avaient une mémoire certainement orale, parce que je n'ai pas trouvé de traces écrites administrative, hein, c'est des rapports de gendarmerie, etc. Et ces gens ont su où se mettre en sécurité. En 2010, les gens qu'on a pu interroger dans les zones qui avaient été victimes, disaient, mais on ne sait pas où il faut aller pour essayer d'éviter une vague, être sur un môle capable de nous faire, de nous mettre à l'abri. Non, absolument pas. Deuxième aspect aussi, c'est des témoignages pour la submersion de 1711. La porte en Ré, Ars en Ré, avait été submergée. Et j'ai des témoignages du curé dans son registre paroissial. Et il dit, non, on n'a pas eu de mort. Mais alors, les pauvres gens, ils ont été submergés, ils ont été obligés de se réfugier à l'étage. Parce que les maisons, vous avez un exemple ici, c'est une maison donc, des années 1660. On a fait donc une étude, photographie, on recherche archivistique aussi, sur l'habitat le plus ancien. Elles étaient systématiquement dotées d'un étage. Et l'archive, là, le curé d'Ars en Ré, les gens, vous vous rendez compte, les pauvres, ils ont passé une semaine ou 10 jours, le temps que la mer, reflue, à l'étage. Troisième exemple, pédagogique, visuel. On a peut-être affaire à des populations qui sont peu alphabétisées, mes ex-voto, là, mes petites peintures religieuses. Les gens étaient pratiquants, ils allaient a priori à la messe tous les dimanches. Ben, tous les dimanches, quand même, ils pouvaient avoir l'occasion de voir ce genre de représentation iconographique qui leur rappelait quoi ? Le risque. Vraiment, ces tableaux dans les zones maritimes colonisaient les églises. On en retrouve aussi de forte densité dans d'autres régions à risque. Moi, je travaille beaucoup sur les montagnes, dans les Pyrénées, dans les Alpes et dans le massif Vosgien aussi. Il y en a beaucoup. Contre les avalanches, risque de pluie torrentielle, glissement de terrain. Vous avez des représentations religieuses de glissement de terrain ou d'avalanche. Et les Allemands, puisque je parlais des bons élèves de l'Europe, alors les Allemands, eux, ils n'ont pas biaisé, après 1962. Plutôt que d'interdire, ils étaient très pragmatiques, les Allemands, ils sont souvent pragmatiques, ils ont rendu obligatoire dans toutes les communes des Länder, du Schleswig-Holstein, des Hambourg, etc., la plantation de ces poteaux-là, sur lesquels on a reporté les hauteurs d'eau dans tous les secteurs, hauteur d'eau historique. Et là, par exemple, ça démarre en 1825. C'est intéressant parce que, effectivement, je n'ai pas pu convaincre les élus. Donc les Allemands, visiblement, ils ont dit qu'on ne pourra pas les convaincre, on va leur interdire d'urbaniser. En revanche, c'est la loi, on leur impose de planter le poteau. Il faut quand même bien reconnaître que quand vous êtes élu, vous avez un poteau, ils ont imposé, alors la hauteur, vous avez vu la hauteur du poteau, il est vraiment très haut par rapport à la voiture, ils sont très visibles, on n'a pas le droit d'y toucher. Je l'avais préconisé dans le rapport, il y a une loi qui normalement l'impose, c'est la loi risque de 2003, donc bien avant Xynthia, etc., qui recommande, alors je cite plus ou moins dans le texte, la création de repères historiques, de crues, d'inondations, et déjà, ils l'ont mis noir sur blanc, de submersion, elle n'a jamais été appliquée, visible, repérable, qui pourront être observés et connus de tous. Donc les Allemands n'ont pas sanctionné, ils n'ont pas interdit, ils ont imposé la plantation de ces poteaux, et du coup, il n'y a aucun élu normalement constitué et politiquement ambitieux qui n'a envisagé d'aller bâtir derrière une digue, derrière des zones anciennement inondables. C'est simple, ça ne coûte pas très cher, et finalement, ça semble être assez dissuasif. Ça a marché. Alors, il y a bien une digue, donc ils ont poldérisé, ils ont colonisé, mais contrairement à ce qu'affirmait un élu au lendemain de la catastrophe en disant « les digues ont toujours existé, on n'a pas fait d'erreur », ben, les Allemands se sont inscrits dans le mouvement historique des digues, à savoir que derrière une digue, on n'installait que de l'agriculture et pas des gens. Ce serait un peu la conclusion. Dans l'exposé, donc là, vous avez un organigramme qui vous synthétise un petit peu tout ce que je vous ai dit, mais je ne reviens pas dessus. Donc on a un contexte, des contextes météo qui sont comparables sur le plan historique aux événements contemporains, avec des impacts comparables aussi. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des dommages historiques. Les dommages concernent surtout l'agriculture. On retombe sur ce principe de précaution. On a rarement des dommages causés au bâti. Avec déjà l'élaboration de systèmes de prévention alerte, ça c'est de la terminologie contemporaine empruntée à la défense civile en France, la mémoire, les repères, les zones insubmersibles, le bâti, ce que j'appelle le bâti en deuxième ligne, le réseau des clochers. Ah, j'aurais dit, mais pourquoi on n'utilise plus le réseau des clochers? Ça appartient aux mairies. On n'a pas à négocier avec l'Église, c'est pas un souci, les bâtiments sont communaux. C'est simple, ça coûte pas très cher. Pendant très longtemps en France, on a utilisé ce système d'alerte. Ah, il y a un blocage psychologique, il n'est plus question d'utiliser ça. Alors, il vous dit non, SMS. C'est vraiment le mot-clé, SMS, on lance des alertes, SMS. Réaction, solidarité, j'en ai absolument pas parlé. Les gens sont très solidaires, ce sont des communautés qui sont très soudées. Alors, ça, on le voit très bien. Les gens sortent, vont à la rescousse de leurs voisins. Sans organisation préalable, ou j'en sais rien, elle est naturelle, je ne sais pas. Ils s'organisent en groupe, un petit peu comme des milices municipales, et ils montent au front, c'est-à-dire vers les digues, pour essayer de boucher les trous, bien avant l'intervention des pouvoirs publics. Et puis vous avez des gens qui connaissent entre autres les zones insubmersibles, donc ils drainent une partie des villageois. Ils embarquent les gamins sont acheminés vers les zones insubmersibles. Les responsables de l'État aujourd'hui en France refusent. Ils disent, mais divulguer ce type d'information, c'est faire peur aux gens, vous n'avez pas le droit. Alors que c'est totalement faux. Une population qui est prévenue est beaucoup plus résiliente et perçoit de manière moins angoissante le risque. Puisqu'il peut y avoir des exercices réguliers avec des écoles, on en fait bien d'autres avec les écoles. C'est quelque chose qui est praticable et qui, en plus, dans une perspective citoyenne, recréerait très probablement du lien social dans des communautés qui ont connu un bouleversement démographique et social absolument inimaginable, incomparable avec la situation en Normandie ou d'autres régions de France. Vous ne vous rendez pas compte du brassage qu'il y a eu dans ces communes littorales. Les gens ne se connaissent pas. Même quand vous tombez sur des retraités qui vous disent « je suis de Lille », en fait, le retraité en question, il a passé 50 ans comme fonctionnaire à Paris. Et il est revenu il y a 10 ou 15 ans à l'île de Ré. Donc, on n'a plus beaucoup de populations purement autochtones. Donc, je passe. Alors, en guise de conclusion, eh bien, il faut faire l'histoire, hein, c'est vraiment utile. Ça apporte quoi? Une meilleure connaissance des fréquences, de la recrudescence et même de la sévérité des submersions, puisque le détail de nos archives nous autorise à quantifier la sévérité, mais dans une perspective sociale. On n'aura pas forcément les données météo de 1936, c'est une période ancienne. En revanche, mais c'est aussi bien, en revanche, on va avoir le type de dégâts, les zones impactées sur le plan géographique. Or, finalement, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Ce qu'on veut savoir quand on est un décideur, un assureur, c'est qui risque d'être touché. et pas finalement le degré de sévérité sur une échelle mathématique. Ça a peu d'importance. Deuxième point, c'est bien sûr l'approche cartographique. On peut faire des choses absolument magnifiques, mais vous avez vu quantité d'exemples, dans l'exposé. Et enfin, alors là, c'est très, très prétentieux, hein, je pense, un outil d'aide à la décision, un outil de communication. Ils n'arrivent pas à faire passer leurs décisions. Vous avez vu, là, les zones noires, la polémique, etc. Le gouvernement actuel n'ose plus y toucher, ce qui est quand même un mal absolu. Il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire, visiblement. Je pense qu'on est passé d'un extrême à l'autre, comme souvent en France. Mais il faut faire quelque chose. Et visiblement, là, on a enterré le dossier. Hein. On ne touche plus, c'est miné. Alors que le capital historique peut être un outil de médiation avec des populations locales. En disant, mais ça s'est déjà produit. Vos ancêtres faisaient ça. Ils faisaient déjà ça. Et finalement, ça peut venir en appui d'une nouvelle politique préconisée par un gouvernement, un conseil général ou un conseil régional. Mais c'est très, très rarement retenu par les décideurs. Voilà, sur ce, je vous laisse réfléchir à l'infini sur cette citation qui est sortie dans Le Monde peu après, excellente citation. Ils ont retrouvé un repère de tsunami au Japon. Ils l'ont traduit, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, ce papier, vous le retrouverez en ligne. Et c'était des Japonais, donc au XXe siècle. Ils ont planté une pierre en japonais qui explique, donc, en commémoration, cette pierre a été un des grands tsunamis de 1896-1903. Souvenez-vous, en gros, ne construisez pas avant cette pierre. Et donc, c'était pas un village, en fait, c'est une petite ville d'Aniyoshi. C'est la seule petite ville qui a été préservée, ils ont respecté à la lettre l'inscription de la pierre. Tous les autres ont été submergés avec, je sais pas, certaines communautés ont perdu quoi, 70% de leur population. Voilà. À quoi ça peut servir aussi l'histoire.